aujourd'hui l'émission en deux parties, avec une première partie sur des courts-métrages avec une tête, on en a un peu plus de par les courts-métrages, parce que c'est les premiers qui vont parler juste après quelques brèves. On a donc Catherine.
Oui, bonjour.
Et puis un court-métragiste, Yves.
Bonjour.
Et puis bien sûr, Paul Vicali, qui parlera tout à l'heure, mais qui pourra intervenir quand il veut en émission. Alors, on va peut-être commencer les brèves d'actualité par... Il y a plein de choses quand même. Il y a eu... D'abord, mardi, c'est la journée mondiale contre le sida. Il y a une manifestation à Paris, bien sûr. Et puis, il y a une projection du film de Cyril Collard, tant décrié à la fois pour, à la fois contre. Mais il y a donc un débat autour de ce film, autour donc de la journée mondiale du sida. C'est au cinéma Le Trianon, c'est à Romainville et c'est Place Carnot. Donc il y aura des représentants d'ACT-UP, et puis tout un tas de gens qui viendront donc parler du sida et de comment combattre ce fléau. Donc voilà, c'est mardi 1er décembre à 20h30. C'est au cinéma Le Trianon, c'est Place Carnot à Romainville. Alors, on va faire un petit coucou à Jean Loubert, qui est depuis maintenant presque 10 jours. Il est à la maison de l'acteur, Métroporte d'Orléans, et il y est pendant encore un mois. Il faut vous précipiter, Jean Loup, c'est un musicien, il fait du blues français, on l'aime beaucoup, il passe souvent dans Front de Noir. C'est un spécial copinage. Donc, c'est à la maison de l'acteur, Métroporte d'Orléans, c'est à 20h30 et c'est tous les soirs. Laura, Mizoguchi.
Oui, Mizoguchi, ça continue, il faut y aller, c'est au studio Action. Alors, on a bon, les Sœurs de Jean et Gilles d'Osaka, l'intendant son show, enfin, que vous dire, il faut y aller, c'est indispensable et c'est magnifique. Voilà.
Moi, je passe de Mizoguchi au cinéma mexicain, et c'est à la salle Garant, ça dure jusqu'au mois de mars, je crois. C'est le cinéma mexicain, avec tous les Buñuel, donc on a l'impression de se répéter comme ça, d'émission en émission, mais c'est toujours. Bien de faire d'enfoncer le clou. Et c'est donc à la salle Garance. Voilà. Il y a tous les Buñuel mexicains, le Robinson Crusoe, et puis des choses très rares. Le programme dans tous vos petits manuels de programmation du mercredi, ou un programme qui est disponible à la salle Garance, donc c'est à Beaubourg. Guitry revient. Guitry,
ah,
oui, bien sûr.
Bien.
Guitry à l'affiche à partir de mercredi. Donc c'est le 12, c'est
ouais,
ça, voilà.
Et
il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin une quinzaine de films. Mon père avait raison, Le comédien, Le boiteux, La poison, La vie d'un homme et homme, Assassin et voleur, etc. etc. Oui. Raoul, il n'y a pas de bureau.
Non.
On n'a pas trouvé la copie, je crois. Une autre, là c'est un anniversaire, c'est le 10e anniversaire du centre audiovisuel Simone de Beauvoir, c'est au Palais de Tokyo, on y reviendra tout à l'heure au Palais de Tokyo. C'est du 1er au 9 décembre, c'est souvent de la vidéo de très bonne qualité, mais il y a des films. Il y a aussi un hommage à Delphine Seyrig, qui a été présidente et cofondatrice du centre audiovisuel, qui est morte donc en 91, et il y a un hommage à Luce Guilbeault. Voilà, il y a une compétition, il y a de la vidéo, il y a des films, et c'est donc au Palais de Tokyo. Mm-hmm. À la Cinémathèque, il se passe plein de choses.
À la Cinémathèque, il va y avoir plein de comédies, des burlesques, Ben Turpin, etc., etc. Et j'ai concocté un petit hommage à Jerry Lewis, parce qu'on va voir ce vendredi un film qu'on n'a pas vu depuis longtemps en France, avec Jerry Lewis, un film de Jerry Lewis, de Patsy, si c'est possible qu'on entende Jerry Lewis chanter dans de Patsy. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a quelques petites merveilles qui passent, comme Le sport favori de l'homme, aussi, que j'irai revoir parce que c'est inusable.
Mais non, ça c'est du parlant ça, mais comme avant,
oui.
Il y a toute une...
Oui, j'ai dit Ben Turpin,
des bandes de muettes.
Oui, oui, il y a des Macarets, Laurel et Hardy, me semble-t-il.
C'est pas
du Laurel et Hardy. Oui,
bien sûr. En plus, les beaux, c'est-à-dire ceux de Macarets. Donc, des choses absolument formidables, de quoi se réjouir, quoi.
Ouais,
on peut dire ce qu'il y a dans le détail.
Chaque jour, un programme différent, donc de 1 à 27. Et puis avec des films, donc les petites bandes du burlesque, rassemblées par thème. Il y a Bonjour les armes, Medical Show, Laurel et Hardy en solo,
il y a Golf Party,
il y a des choses sur le cinéma, des choses sur les fantômes. En fait, il y a pratiquement tous les Buster Keaton.
Il y a plein de choses drôles. Donc un Jerry Lewis qu'on n'a pas vu depuis longtemps, le Hawks on le voit de temps en temps, mais c'est pour favori de l'homme. Oui, Raoul Tabin.
Non, je me demandais ce que ça voulait dire le Laurel et Hardy en solo.
Ben je vais te dire, si je retrouve, je te dis, je cherche, voilà, en solo.
C'est chacun d'un côté.
Voilà.
C'est plus Laurel Hardy.
Non, c'est Laurel. ou Hardy.
Oui, mais tu as des Laurel tout ça, non?
Oui,
bien sûr.
Mais c'est moins intéressant.
C'est bien.
Donc c'est pas les Tokyo, c'est pendant tout le mois de décembre, et on va écouter Jerry Lewis.
Jerry Lewis.
I lost my heart in a drive-in movie.
Vendredi 21h, ouais. Palais de Tokyo.
Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, c'est un très beau film.
C'est en couleur ou c'est en noir et blanc?
C'est en couleur.
Ah,
ouais. Et Tarada,
attends, ils vont le remettre en noir et blanc, non?
Quand même.
C'est la mode de coloriser les noirs et blancs, on va peut-être décoloriser les couleurs.
Non, Jerry Lewis, c'est un choix. Quand il veut faire de la couleur, c'est comme Tati, je veux dire, c'est vraiment de toute la comédie, c'est un choix conscient. La couleur ou noir et blanc, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais pas du tout contente d'entendre Marcel Carné l'autre matin. À la radio, comme ça, au réveil, radio, c'est un peu dur, comme ça, d'entendre dire que les enfants du paradis vont être colorisés, que ça sera plus vrai, comme ça, mais que la robe de Garance, n'est-ce pas, Letty, restera blanche face au monde. Je sais pas, je trouve que c'est quand même pas très bien. Moi, ça m'a un peu énervé d'entendre Marcel
Carné. Mais peut-être
Carné
que lui, il a peut-être pas pensé son film en couleur.
Il n'a peut-être pas pensé son film du tout, d'ailleurs.
Moi, j'ai
une vision un peu sceptique sur Marcel Carné. Autant j'aime Grémillon, Gans, les tas de gens, autant je pense que Marcel Carné est un rassembleur de talents talentueux. Mais quand il a Eugène Chauvetin à la photo, quand il a Alexandre Trainer au décor, quand il a Jacques Prévert au scénario et au dialogue, et quand il a une pépinière d'acteurs. Mais une fois que tous ces gens-là sont partis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des films que moi je trouve absolument insipides. Et je me demande si c'est vraiment un auteur. Alors c'est vrai que bon, on regrette peut-être les carnets pour les talents qu'il a rassemblés alors. Mais de là à coloriser, bon, c'est comme si on prenait les Rembrandts en noir et blanc, les petites gravures là, format timbre-poste, et qu'on les colorisait, ou qu'on vidait les tournesols de Van Gogh de leur jaune et qu'on les mettait en bleu.
Non,
là, il y a quelque chose. Moi, ça m'énerve. Moi, ça me plaît pas. Ben alors, par contre, j'ai une suggestion à faire à Marcel Carné. Parce qu'il y a un film de Carné que je trouve son meilleur film, quand même, qui s'appelle La Bible, qu'il a tourné en 1977, qui est un long diaporama de plus de 2 heures, que j'ai vu en projection privée, parce que les distributeurs n'osaient pas le sortir, ne savaient pas trop quoi en faire. Je me suis d'ailleurs demandé si c'était une commande du Vatican, c'est une espèce d'illustration de catéchisme, enfin un cinéaste un peu hagiographique comme ça. Et on pourrait peut-être suggérer que sa Bible soit vidée de toutes couleurs, puisque c'est une illustration de catéchisme en couleurs, comme ça peut-être atteindrait-elle un degré d'abstraction qu'elle n'a pas, et peut-être serait-elle regardable. Voilà. 77, Marcel Carné, La Bible.
On pourra intervenir pour la contradiction.
Absolument, non, mais même tout de suite. Hein.
Je pense que Marcel Carné est un des plus grands réalisateurs français, et ça m'agace beaucoup d'entendre ça. Parce que quand on a fait Le Jour se lève, quand on a fait Quai des Brumes, qui à mon avis est plus grand que La Grande Illusion, et de très très loin, je trouve qu'on n'a pas le droit de parler comme ça d'un monsieur, et que c'est un monsieur qui a une écriture, et si auteur veut dire quelque chose, c'est quand on a une écriture au cinéma. C'est pas parce qu'on écrit ses scénarios. Je veux dire, Prévert, c'est très bien, mais Prévert a... C'est un poète, et c'est un homme qui a créé des personnages et des situations et des atmosphères, et puis, l'atmosphère n'est pas là pour rien d'ailleurs, bien que ce ne soit pas lui qui l'ait dit, qui l'ait écrit, et Carné a une véritable écriture, il y a des choses dans l'Hôtel du Nord qui sont absolument irreproductibles, et pour moi, l'auteur commence là, quand c'est irreproductible.
Voilà. C'est, Paul, c'est une grande discussion qu'on a en émission depuis très longtemps, puisque moi j'adore ces films-là, mais je ne me lasse pas
de
les revoir.
C'est bien de le dire parce qu'il y a des gens qui entendent.
Absolument, non, mais.
C'est de toute façon, entouré de quelqu'un de nul, de gens extraordinaires, il sortira toujours quelque chose de nul. Alors c'est pas vrai qu'on fait des bonnes choses en s'entourant de gens extraordinaires. Si vous êtes nul, vous sortirez quelque chose de nul, parce que les gens ont besoin d'une demande, que ce soit dans n'importe quel domaine. S'il n'y a pas de demande, c'est n'importe quoi.
Il y a beaucoup d'exemples. L'amant de Marguerite Duras, qui est un beau roman.
Le film ?
Ah ben, vous trouvez tout seul.
Bien, ben voilà.
On va faire beaucoup de courts-métrages avec le budget de l'amant. Hein. J'aurais peut-être aller plus loin. Hein.
Vous dites beaucoup, c'est pas assez.
Non, mais je veux dire, sur le thème de l'amant et sur le thème du bouquin, on avait dépensé ce budget en donnant aux gens, en faisant faire aux gens des courts-métrages, imaginez la richesse qu'il y aurait, parce que ça aurait été quand même très vivant, je pense. Il y aurait eu plus de vie
que
dans un...
La petite tirade que vous venez d'entendre sur les courts-métrages, c'est Yves Buclet qui est court-métragiste, cela s'entend. On va passer au court-métrage maintenant avec deux annonces pour commencer. Une première, c'est Une heure c'est trop court, c'est trois lundis sur quatre, c'est au passage du Nord-Ouest. Catherine, du passage du Nord-Ouest, vous travaillez avec eux, je crois.
Oui, on va en parler tout de suite.
Voilà. Et l'autre, bien sûr, l'autre manifestation, c'est mardi. C'est mardi, oui. Mardi à 21h. C'est au Palais de Chaillot, non, c'est 18h30, voilà, c'est mardi 18h30, c'est en même temps que la manif, alors il faudra choisir entre la manif contre le sida ou les courts-métrages, il y a peut-être des courts-métrages contre le sida. Bon, enfin bref, c'est Fenêtre sur cour, c'est mardi 1er décembre à 18h30 au Palais de Chaillot, c'est métro Trocadéro. Alors, Fenêtre sur cour, c'est quoi ?
Alors, Fenêtre sur cour, c'est une toute jeune association qui s'est créée en 1991, à la suite d'une expérience qui a eu lieu le 1er mars 1991 au Palais de Chaillot, qui a été une initiative menée totalement par les réalisateurs de courts-métrages, menée par Karen Alperne, qui avait réalisé son premier court-métrage de 3 minutes et qui ne savait pas comment le montrer. Elle avait eu déjà du mal à le fabriquer, elle voulait le montrer, et elle s'est dit comment déplacer des gens pour leur montrer un film de 3 minutes, c'est extrêmement difficile, et elle s'est dit qu'il y aurait certainement d'autres jeunes réalisateurs de courts-métrages dans la même situation. Elle a donc passé quelques coups de fil à droite à gauche, et elle a réussi à concocter avec quelques amis un programme de 17 courts-métrages, très divers, de longueurs diverses et variées, en noir et blanc, couleur, autoproduits, subventionnés. Elle a été aidée par Jean Rouge, qui l'a parrainée pour cette soirée qui a eu lieu le 1er mars 1991 à la Cinémathèque, et qui a été un grand succès, la salle était comble, et on a été beaucoup encouragés à la suite de cette expérience à continuer, et c'est à la suite de cette expérience complètement informelle qu'est née Fenêtre sur cour, quelques mois plus tard, association de jeunes producteurs et de jeunes réalisateurs de courts-métrages, pour faire en sorte que cette expérience continue, se perpétue, à la Cinémathèque de préférence. C'est pourquoi nous sommes de retour le 1er décembre à 18h30. Nous présentons 14 courts-métrages français récents, ils sont presque tous de 92 à l'exception d'un seul sur 14. Et nous sommes heureux de présenter à nouveau ce programme à la Cinémathèque, parce qu'avec les changements de direction, on se demandait si on pourrait à nouveau collaborer avec eux. Ça a pu marcher encore et on est vraiment très heureux de revenir sur les lieux de notre première expérience. Alors je vais peut-être laisser la parole à Yves Buclet pour qu'il présente son film. Il est un des réalisateurs qui passera le 1er décembre. Les réalisateurs seront tous présents, nous tenons à le signaler. Ceci étant, l'idée de l'association, c'est pas de faire un festival avec jury, c'est d'aider les réalisateurs à montrer leur court-métrage.
Montrer, c'est tout.
Dans un premier temps, c'est notre but, les montrer en France, les montrer à l'étranger. On a eu déjà une expérience à New York l'année dernière et on voudrait réitérer ça avec les alliances françaises en particulier. On
est en train de mettre ça en préparation. Vous avez des liens avec l'agent du court-métrage, plus bref ou pas ?
On n'a pas de lien, direct. On travaille pour le moment à côté d'eux. On aimerait bien travailler avec eux. Ils vont venir à notre soirée, on en est ravis. Et on espère pouvoir mettre en place une collaboration avec eux.
Il y a beaucoup de gens qui s'enthousiasment pour réaliser des courts-métrages. Je trouve ça formidable qu'il y ait des gens qui s'enthousiasment pour les montrer, parce que sinon c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que le court-métrage, c'est que bon, moi je ne vais pas parler de mon film, parce que bon, vous le verrez si vous venez, hein, c'est tout. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des gens, mais vraiment des gens professionnels à haut niveau, aussi bien que des amateurs, qui donnent leur talent et leur énergie pour le court-métrage. Et en ce moment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de courts-métrages qui se tournent. Alors bon, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, c'est quand même une énergie extraordinaire. Et il faut qu'il y ait des gens qui viennent les voir, parce que ces courts-métrages sont loin de la pollution, du fric et de tout ce qui nous entoure, parce qu'il y a une grande pollution. Et j'espère qu'il y aura des écologistes du spectacle qui arriveront un jour pour nettoyer un petit peu tout ça, voilà.
Parce que les écologistes vont nettoyer quelque chose.
Tout peut être pris dans un mauvais sens. Mais un peu d'écologie, c'est bien. Un petit peu d'écologie aussi, bon, on en a marre. Non, mais de toute façon, je vais quand même dire une chose. Ce qui est bien quand même, c'est de voir les sabatiers, tous ces gens-là, se casser la gueule. Et par exemple, moi, en ce moment, je m'intéresse un peu au théâtre, je ne m'y intéressais pas avant. Mais c'est vrai que les gens du théâtre ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de ne pas être pollués par le fric. Et les gens vont aller de plus en plus vers le théâtre, parce que le théâtre est quand même un endroit pas trop pollué. Vous avez vu déjà de la publicité au théâtre?
Ça dépend quel théâtre.
On n'a jamais coupé un acteur hein, pour lui faire dire...
Ça viendra.
Ça dépend.
Ça dépend quel théâtre.
J'ai une idée.
Bien.
Alors, non, mais on va quand même parler de ton film, Yves. Oui. C'est quoi, ton premier cours? C'est ton cinquième cours?
Non, c'est mon troisième court-métrage.
Et ça s'appelle comment?
Ça s'appelle Basse Tension.
Basse Tension.
Basse Tension, c'est...
Ça dure combien de temps? C'est ce que
ça dure, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes, c'est en noir et blanc et en scope, parce que Thierry Herbogaz, qui tournait un long-métrage, m'a permis à travers une production de me donner tout le matériel du long métrage pour faire mon court métrage, ce qui fait que j'étais très très heureux et je le remercie et je remercie toute l'équipe et Philippe Voltaire qui tourne dans le film.
Mais ça se passe souvent comme ça, on a l'impression que les court métragistes arrivent par des bouts de ficelle à récupérer du matériel, à récupérer de la pellicule, à récupérer de l'énergie sur des grands metteurs en scène, et puis comme ça les courts-métrages se font. Un peu comme ça que tu as été fait, non?
Ben oui, moi c'est pas un bout de ficelle, je veux dire.
C'est pas
ma vision, j'ai rencontré des gens qui étaient habillés en cours, qui m'ont permis de faire un mixage sur la Rolls, la même salle où avait été mixé l'amant. Bon, c'est pour ça qu'il y a quand même une certaine qualité technique au moins, mais bon, tout ça c'est... avec des gens qui vous aiment, qui aiment le cinéma et qui donnent beaucoup. Il y a une grande générosité, je trouve, dans ce milieu. Et c'est toujours étonnant. J'avais un copain peintre qui était passé sur le court-métrage et qui ne connaissait pas du tout le cinéma. Et il n'en revenait pas. Quoi. Il me disait, mais tous ces gens qui travaillent comme ça. Alors il pleuvait, les gens étaient sous la pluie, c'était l'horreur. Il me disait, mais ils se marrent tous, ils sont tous contents, c'est incroyable. Et moi-même, je suis toujours touché et ému par ça. C'est incroyable. Je pense qu'il y a quelques domaines où on peut trouver ça, mais il y a c'est formidable.
Dans ce que tu dis, et je cautionne tout à fait, mais il y a une chose qui m'ennuie, c'est dire court-métragiste. Bon Dieu, il n'y a pas de court-métrage, il y a des films. Et il y a des longs-métragistes, qui font la même chose, qui diglanent de la pellicule à droite, un acteur à gauche, et qui arrivent à faire leur film comme ça, j'en sais quelque chose.
C'est vrai que tu continues même
à faire des court-métrages. Oui, moi je veux dire, si j'ai une histoire à raconter en 6 minutes, je ne vois pas pourquoi je vais en faire en 2 heures. Je suis contre le...
Disons qu'il y a deux cas de figure. Vous avez le choix de faire des longs et des courts, vous avez le choix que de faire des courts. Oui. Donc les courts, c'est un premier mot qu'on dit. Bon, peut-être l'idéal, ce serait que ce mot suffise, puisque dans le temps qu'on a, on a dit ce mot et c'est tout. Des fois, c'est un premier mot qui demanderait peut-être d'autres mots à côté, enfin d'autres images. Mm-hmm. Mais bon, ça vient, quoi.
Mais je serais toujours contre l'idée du court-métrage comme bande d'essai du long-métrage. Je trouve ça absolument ridicule. On a une histoire à raconter en cours, on la raconte en cours, une histoire à raconter en long, on la raconte en long. Et tout le monde vous dira qu'il est plus facile de monter un long métrage qu'un court métrage.
Absolument, mais disons qu'on peut peut-être prendre plus de risques sur un court métrage. La preuve, c'est que dans les longs métrages, on voit souvent un manque de prise de risque. Alors que dans les courts métrages, bon.
C'est une question d'individu, c'est une question de formule. Un avis.
À Belfort, là.
Il y a pas de producteur derrière hein, pour aussi dire. Moi, je connais des gens qui ont fait des longs métrages. La production était derrière et c'est vrai que vous n'avez pas une liberté à 100% quand vous faites un court métrage.
Je connais des gens qui ont fait des courts métrages. Non, je connais des gens qui ont fait des courts métrages avec des producteurs derrière qui n'avaient aucune liberté.
Ah oui.
Et moi, j'ai fait des longs métrages où je n'avais personne derrière moi.
Oui, mais tous les cas.
Tout est possible. C'est pour ça que je veux dire. Moi, je trouve que la distinction ne peut que nuire au court métrage. C'est une terminologie qui est presque inévitable, mais je regrette qu'elle soit inévitable.
Oui, alors justement, je voudrais revenir là-dessus parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Paul Vecchiali vient de dire à propos du court-métrage. Et nous, notre but, c'est de promouvoir le court-métrage en tant que mode d'expression cinématographique à part entière, et pas seulement comme première étape. Parce que le fait qu'on considère que le court-métrage, c'est une première étape vers le long-métrage, ça induit un petit peu aussi un mode d'exploitation particulier du court-métrage, qui consiste à le faire passer autant que cela peut se faire dans le système d'exploitation actuel, avant les longs-métrages uniquement. Et nous, nous voudrions faire en sorte que le court-métrage puisse avoir un système d'exploitation qui corresponde à ce qu'il peut devenir, qu'il puisse avoir à la télévision la place qui lui revient, et pas seulement à la télévision, mais aussi dans les salles. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'essayer de mettre en place un système de diffusion en salle, puisque la diffusion en salle, c'est notre premier objectif. Montrer les courts-métrages en salle, c'est vraiment ce que nous voulons faire en priorité. Et nous sommes en train de mettre en place donc un système de diffusion régulier en salle, à Paris, en province et à l'étranger. Alors je vais revenir un petit peu sur soirée...
Avant que tu repartes sur la soirée de mardi,
je veux
simplement dire ce que tu as dit est très très juste. Je viens de Belfort, et il y a un film qui a eu une mention au palmarès. Ça s'appelle Les histoires d'amour, finissent mal, trois petits points en général. C'est fait par une jeune fille qui s'appelle Anne Fontaine. Et cette Anne Fontaine n'avait jamais fait de court-métrage. C'est un long métrage qui a été remarqué pour sa qualité technique, sa mise en scène. Enfin, il avait les qualités d'un bon film. Et c'était son premier film, son premier essai. Il n'avait pas passé par le court métrage.
Oui,
c'est vrai que quand on a une histoire à raconter en 3 minutes, on le fait en 3 minutes. Quand il faut 2 heures, on le fait en 2 heures.
Mais bien sûr. Et ce qui fait la richesse du court-métrage, c'est justement le fait qu'on puisse passer en une seule soirée des sujets complètement différents. Quand vous allez voir une soirée court-métrage, vous êtes sûr de ne pas être déçu quand vous sortez de la salle. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un long-métrage.
Il ne faut quand même pas être hypocrite. Tout le monde n'est pas capable de réaliser un premier film formidable tout de suite, un long-métrage. Et c'est quand même bien aussi de c'est comme une grammaire aussi. Hein. Je veux dire, c'est quand même tout le monde. D'abord, il y a peut-être des gens très doués qui font leur premier film et il est absolument génial. Mais enfin, quand on se coltine à la pellicule, à tout ça et qu'on travaille, on apprend quand même des choses. On avance et ça nous évite peut-être aussi de, bon, quand même de faire des conneries le jour où on aborde un long métrage, parce que c'est vrai que bon, la liberté qu'on a dans le court métrage, moi je revendique de pouvoir essayer plus facilement des choses. Quoi.
Enfin, il faut la garder cette liberté.
Voilà.
Il faut la garder.
Oui, il faut la garder, mais moi, c'est pas facile parce que quand on a des projets de long métrage, déjà, on entend beaucoup parler de télévision hein, déjà. Quand
vous c'est obligatoire. Film,
ah oui, mais enfin bon, déjà, il y a déjà des pressions sur les acteurs, etc. Bon, moi j'ai Philippe Voltaire, j'ai choisi, personne ne m'a.
Il a été
formidable, etc.
Je
profite de cette liberté. Je pourrais la garder.
Il ne faut pas partir
après,
de ce principe que la contrainte n'est pas obligatoire. Ça devient pour beaucoup une espèce d'autocensure en disant il y a des contraintes, donc je. Il n'y a pas de contraintes. On a toujours le temps de les voir arriver, les contraintes, quand elles sont là. Mais si on les présuppose, alors là, on tombe dedans. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que le court-métragiste qui dit « moi, je fais ça pour m'entraîner au long-métrage » fasse un peu dans toute liberté de les pas de bourgeois pour se faire engager dans un long. Et moi, je pense qu'on doit faire un film avec ses tripes et non pas avec l'idée de s'entraîner. Bon, j'ai tort ou raison, mais...
On va peut-être revenir sur la soirée de mardi. À 18h30.
Oui, alors justement, je voulais revenir sur la soirée pour expliquer un petit peu comment ça se passerait. Nous allons donc présenter, avant le début de la projection, nous allons présenter tous les réalisateurs pour que les personnes qui seront dans la salle puissent mettre un nom sur chaque auteur de film, un nom et une tête. Et au cours de la projection, il y aura des retours de lumière à intervalles réguliers pour que les gens puissent consulter le programme. Parce que dans ce programme, vous verrez que nous avons inséré des textes rédigés librement par chacun des réalisateurs. Et au cours de ces petits retours de lumière à intervalles réguliers, les gens pourront donc regarder le programme, lire les textes, se faire une idée de ce qui va se passer dans les 15 minutes qui suivent, et consulter éventuellement la liste des personnes qui ont participé à la réalisation du film, ça peut les intéresser. Il y aura éventuellement une possibilité de demander des coordonnées à la fin de la projection ou de laisser sur un registre des noms pour qu'on puisse ensuite recontacter les personnes. Je voudrais également dire que pour cette soirée, nous avons eu le soutien évidemment de la Cinémathèque, le soutien d'ACFA et également le soutien des Champagnes l'été.
Pas sur Libertaire. On est sur Libertaire, on ne peut pas tout visiter. Je suis désolé. C'est vrai que vous avez du soutien. Vous avez des soutiens, c'est bien. La Cinémathèque, on peut le dire, puisque nous, on ne gêne pas pour en parler. Mais dès que ça devient marchand, c'est un peu dur pour nous. Enfin bon, vous avez des supports.
On a eu quelques soutiens. On voudrait en avoir encore. C'est pour ça qu'on voudrait qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent. À 18h30, l'entrée, c'est 22 francs. C'est ouvert à tout le monde. Et nous invitons donc tout le monde à nous rejoindre pour nous poser des questions sur notre action. Il y aura des bulletins d'adhésion qui seront à la disposition de tout le monde. Des bulletins d'inscription de films également pour les jeunes réalisateurs qui éventuellement seraient intéressés pour nos prochaines projections. Et nous souhaitons donc qu'il y ait le maximum de personnes mardi soir.
Donc c'est mardi soir, c'est le...
Le 1er décembre à 18h30 à la salle du Palais de Chaillot, métro Trocadéro.
Radio Liberté 89.4, on va passer à... D'abord, c'était Le temps d'aimer, le temps de mourir, le film de Le Glaceur, c'est la bande-son, c'est un petit clin d'œil à un monsieur qui est venu il y a 15 jours, avec qui on a fait une émission très très bien. C'était Jean-Claude Guiguet pour Le Mirage, qui est encore à l'affiche et qu'il faut aller voir. Et donc, Le temps d'aimer, le temps de mourir, on va partir du côté de la chronique La Voix sans nom. On vous laisse donc avec Raoul Tabilly.
Bonjour à tous, Raoul Tabilly, 4e. Aujourd'hui, une interview de quelqu'un d'assez exceptionnel, puisqu'elle est l'une de nos grandes stars internationales. Elle a déclaré sur le métier de comédien qu'elle l'a aimé profondément, parce que, premièrement, elle est exhibitionniste, et le fait d'être filmée sublime cet exhibitionnisme, parce qu'elle se trouvait laide et qu'elle s'est découverte désirable, et puis la troisième raison tient au fait que ce métier lui permettait de jouer. Évidemment, c'était de la comédie. On commence d'abord par une exclusivité de la bande-annonce de son nouveau film.
Maintenant, elle veut s'en sortir. Par n'importe quel moyen. Ce que les autres appellent l'église, elle appelle ça chez elle. Aucune messe, aucune prière, aucun dieu ne peut plus l'arrêter.
Thérèse.
Brigitte Lahaye dans Thérèse 2, la mission.
Tiens.
Brigitte Lahaye, bonjour.
Bonjour.
Bah écoutez, donc on va parler de cinéma. Qu'est-ce qui vous intéresse comme film aujourd'hui dans la production cinématographique en France ou à l'étranger d'ailleurs?
Moi j'aime les films à grand spectacle, ou du moins les films qui m'emmènent loin. J'aime bien les films qui ont une sorte comme ça de qui me font rêver finalement. Moi le dernier film que j'ai vu c'est le film de Clint Eastwood. Et j'ai beaucoup aimé ce film parce que sous un côté comme ça western, c'est un film qui montre un metteur en scène qui aime beaucoup la femme. Donc ça m'a évidemment énormément séduit. En réalité, le metteur en scène avec qui j'ai tourné et dont je suis plus contente, c'est Philippe Kaufman, qui a quand même fait deux films que j'adore, dont l'un est Les Taupes des héros, l'autre L'insoutenable légèreté de l'être. Et j'ai eu la chance de jouer un petit rôle, mais enfin un rôle quand même dans Henri et June.
Si j'ai bonne mémoire, dans Henri et June, vous jouiez une scène, ça se passait dans un bordel à l'époque, d'Anaïs Nin et d'Henri Miller. C'était,
C'était une scène où les deux personnages, enfin c'était une scène de voyeurisme où il y avait deux femmes qui faisaient l'amour entre elles.
Ce qui m'avait intéressé surtout dans le film, c'est tout le travail qu'avait fait Kaufman avec moi pour m'expliquer ce qu'il attendait de moi et ce qu'il voulait faire passer. En fait, on se rend compte quand on a affaire à des grands metteurs en scène comme ça que finalement, même un regard ou un non-regard d'ailleurs, signifie quelque chose. Alors, évidemment, le spectateur ne s'en rend pas compte, mais ça rentre dans son inconscient collectif et c'est là où on apprécie justement les grands films, quoi.
Vous aviez dit « je crois être profondément... » Alors attendez que je le retrouve... Voilà. « Je crois être profondément comédienne car les films me permettaient de m'exprimer. Simuler l'acte d'amour, c'est jouer. » Lorsque vous disiez ça, c'est par rapport à tout l'acquis que pouvait permettre justement enfin,
Vous savez qu'on dit des fois des choses, puis après, avec les années, on se rend compte que c'était peut-être pas aussi vrai que ça. Je crois qu'en fait, à l'époque où j'ai tourné des films X, j'ai eu la chance de me retrouver devant une caméra, et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais envie de jouer la comédie. Bon, maintenant, de là à dire que je jouais la comédie dans ces films-là, je crois que c'est un petit peu faux quand même. Mais en tout cas, ça a été de la découverte de ce plaisir exhibitionniste de l'acteur, c'est-à-dire de jouer des choses pour une caméra ou pour un public. Quand on est sur scène, c'est un petit peu la même chose.
Contrairement à tous les acteurs de films X qui souvent reniaient totalement ce qu'ils avaient fait dans leur carrière, qui parlaient de l'abattage, de la difficulté de tenir des rôles dans ces films, vous avez toujours affirmé que ça vous avait apporté quelque chose.
Vous savez, dans la vie, toute expérience vous apporte quelque chose à condition de savoir en tirer les conséquences et les conclusions. Moi, je crois que je ne regrette rien, je ne renie rien et je suis ravie d'en être sortie, oui, c'est vrai, mais en même temps, c'était une expérience très enrichissante sur le plan personnel, sur le plan humain. Et puis, je crois que quelque part, oui, il faut quand même oser le faire et c'est pas donné à tout le monde.
Et quand vous avez arrêté donc de tourner des films X, vous avez pris des cours de comédie après, comment ça s'est passé?
Tout à fait, j'ai travaillé de 1980 à 85, j'ai pris des cours, j'étais dans différentes écoles. Et puis là, pour mon spectacle au théâtre d'Edgar, j'ai travaillé pendant 2 mois à nouveau avec un metteur en scène pour réapprendre, apprendre, désapprendre. Je crois qu'en fait, ce que le public ne se rend pas compte, c'est à quel point le métier de comédien est aussi du travail. Et c'est un travail difficile puisqu'on travaille avec son propre instrument qui est notre corps, notre voix, nos émotions. Et donc c'est toujours un travail douloureux parce que bon, bah, quand vous êtes musicien, vous travaillez avec une guitare, bon, bah, vous ajustez la guitare, vous tirez un peu sur les cordes, c'est pas grave, ça fait pas mal. Tandis que nous, c'est pas toujours facile, non?
Spectacle donc au théâtre des gares, tous les soirs à 22h, qui s'appelle Brigitte Lahaye, tout simplement. Facile à retenir.
On va voir si le public apprécie cet acte d'amour que je lui donne.
Qu'est-ce que vous préférez chez un homme? Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme?
Plus ça avance, finalement, moi j'ai une préférence particulière pour quelque chose. Je crois que le regard, de toute façon, c'est quelque chose d'important, mais c'est important parce que c'est une manière de communiquer qui est des fois moins déguisée que la parole, tout simplement.
Et chez une femme?
Pareil, le regard, oui. Le regard et les mains aussi, la façon de bouger les mains, le... Voilà.
Merci. Tout a priori que Brigitte Lahaye est un charme fou, on peut même le dire, et qu'elle rêve de tourner avec Billet, avec Mocky, très certainement avec Ellie, je ne sais pas si avec Ellie elle tourne avec elle. Oui, bah, très bien, bah, en tout cas c'était une de mes plus grandes émotions, prenons-en de la graine, et jusqu'à très bientôt. Thank you.
Encore merci à La Voix sans nom, Raoul Tabi, et puis dans 15 jours pour une nouvelle surprise autour, peut-être une réédition d'un film ancien, autour d'un clown, je crois, mais bon, c'est encore secret, on est en tractation, c'est tout à fait secret pour l'instant. Deuxième partie de Fondue au Noir aujourd'hui, consacrée à Paul Décali. Pourquoi Paul Décali sur Radio Libertaire aujourd'hui? Bah, tout simplement parce que le cinéma Rue de Boeuf, qui se situe à Clichy,
La Garenne,
organise une première rétrospective intégrale des courts et longs métrages cinéma de M. Paul Décali. Et ça s'appelle Cinéma en Diagonale, on y reviendra, parce que Diagonale, chez Paul Décali, il y a beaucoup de choses autour de Diagonale. Et en sous-titre, je ne vais pas faire le sous-titre, moi, Pour l'amour de Dario. Pourquoi Dario? On y reviendra peut-être après, sur les actrices, pourquoi pas Dario? D'accord. Donc, on va peut-être d'abord commencer par les dates. Je vais dire, est-ce que j'ai dit les dates ou pas? 2 décembre, 11 décembre, cinéma Rue de Boeuf. Il y a un métro. C'est Mairie de Clichy. Voilà, c'est facile à trouver.
Tout à fait, 50
minutes de Mairie. Et donc, c'est le système, si j'ai bien compris, c'est un court-métrage, un long-métrage.
Il y a 12 longs-métrages et 8 courts-métrages. Donc, on a mis les courts-métrages devant 8 des longs-métrages.
Voilà.
Okay. Je tenais à préciser que c'était en coproduction avec le département des Hauts-de-Seine, dans le cadre de l'opération Hauts-de-Seine Première.
J'y allais revenir, puisque Hauts-de-Seine Première, c'est une grande manifestation des Hauts-de-Seine. Autour du cinéma, il y avait une très belle affiche, je pense, avec Thierry Tex Avery, où on voyait le loup qui, devant lui, apparaissait, cette fameuse pin-up dont on rêve tous, plus ou moins, et le loup avait les yeux écarquillés, comme vous les connaissez tous. Alors, Paul Décali, c'est d'abord le théâtre ou d'abord le cinéma?
D'abord le cinéma.
Non, les goûts et aussi votre travail.
Oui.
Tous les cas,
c'est le cinéma.
C'est le cinéma, le théâtre est bon. Très très agréable, le théâtre, c'est différent. C'est le cinéma.
Moi j'ai appris un truc qui m'a fait sourire un peu, enfin sourire. Pas vraiment sourire, mais j'étais surpris. C'est que bon, j'ai une petite plaquette devant les yeux, j'ai vu la petite plaquette. Et puis, j'ai dit, je tombe sur votre parcours. Et puis, je vois diplômé de l'école polytechnique. Quoi ? Il a fait X et il a abandonné X. C'est rare pour d'abandonner X.
Ouais, non, c'est pas rare du tout d'abord parce qu'il y a énormément de principaux et métiers qu'on aura prévu, mais moi, de toute manière.
Je vais demander à Paul Décali de prendre le micro noir parce qu'on en entend très mal. Là.
Alors voilà, je
reprends. Bien, oui, je n'ai pas abandonné l'X. J'ai abandonné mes projets d'être metteur en scène pour faire l'X. C'est pas du tout pareil.
Et ça, c'était donc dans les années 60?
Dans les 60, non. Dans 53.
53.
Je suis rentré à l'X en 53 et j'ai décidé de faire du cinéma en 36.
En 36?
Oui. Après avoir vu Meyerling avec Daniel Darieux.
Donc, on y revient.
Ceci explique cela.
Et puis, rapidement, on va vite venir au film. Donc, si la liste est bonne, le premier court-métrage c'est 1962, le dernier court-métrage c'est 1989. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le court-métrage.
92.
Moi j'ai 89.
Oui, mais j'en ai fait un depuis.
Ah oui.
Depuis le catalogue, j'en ai fait un.
Il s'appelle comment, je note?
Il s'appelle Fugue en sol mineur.
D'accord, je note ça.
Avec Françoise Lebrun, Michel Delahaye, Chantal Delsaux.
1989. Et donc, court-métrage tout le temps, il y a un long-métrage.
Bah oui, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Celui-là est en vidéo, c'est un film de commande, mais peu importe. C'est pas... Je crois pas vraiment à la séparation dichotomie, court-métrage, long-métrage. Il y a du cinéma, quand même.
Donc, 62, c'était Les Roses de la Vie. 1992, Fugue en sol mineur. Les longs-métrages, si la liste est bonne, encore une fois. 1965, Les Russes du Diable.
Oui, il y en a eu un avant, j'ai commencé par un long métrage. Non, mais il est perdu corps et bien, ça s'appelait Les Petits Drames. Et si j'ai pu le faire, c'est grâce à Nicole Courcel et Michel Piccoli qui sont venus travailler gratuitement avec moi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les aides, on en a aussi pour les longs métrages, si on voulait trouver. J'ai mis tout mon argent, toutes mes économies pour faire ce film. Puis voilà, mais il est perdu maintenant, mais c'est pas grave, la vie est éphémère, les films aussi.
Il est perdu ou bien
perdu corps et bien. Corps et bien, oui, il est perdu. De toute façon, il a jamais été sonorisé. J'étais obligé de le faire en muet.
Donc, Les Roses du Diable est quand même bon, vraiment donc
pour c'est premier. C'est le premier long métrage pro, disons.
Et puis le dernier, donc, ça va être.
Le dernier, c'est Once More encore, et avec le Café des Jules qui est.
À peu près, ils sont sortis un peu
Michel Michou, ouais. Parce que moi, je l'ai fait tout de suite derrière, mais mais c'était a priori un cinéma de chambre pour la 7. Et puis les exploitants ont beaucoup aimé le film en perspective, ils ont demandé à ce qu'il sorte, et il est sorti.
On peut peut-être écouter François Vidac.
On écoute François Vidac.
Le cœur des pèlerins, parce que justement dans Encore, Once More, dans, au 7e ciel, qui est une boîte homosexuelle, on entend le cœur des pèlerins, pas du tout sur le même type de rythme, mais là aussi c'est une version très irrespectueuse de Wagner. On va voir, on va écouter. À partir du cœur des pèlerins de Wagner.
François Vidac, parce que tu as parlé juste avant la lumière rouge, donc on n'a pas entendu.
Oui, c'est un pianiste plutôt jeune maintenant, enfin qui l'a été à l'époque, et qui, comme tout le monde, et qui est un pianiste de jazz que j'aime bien, et je trouve que ça, son improvisation sur Wagner est quand même assez drôle. Et je l'ai choisi parce que je n'avais pas chez moi la version qu'on entend dans Encore, le film de Paul Vécali, sur lequel on va revenir, et on va revenir, on va parler des films de Paul Vécali. Peut-être que pour en parler, d'abord, il faudrait peut-être introduire son cinéma de Vécali, bon, qui est un cinéma extrêmement personnel, extrêmement porteur d'un monde tout à fait qu'on ne voit nulle part ailleurs, que moi j'aime beaucoup. Donc moi j'ai pas vu beaucoup de films de vous, j'ai vu Le Café des Jules, j'ai vu Encore, j'ai vu Femme, Corps à cœur, L'étrangleur, enfin j'en ai vu 5-6, on pourrait peut-être revenir là-dessus, et peut-être aussi, commencer...
Ce qu'il faut dire aussi, avant de commencer, c'est que Paul a pratiquement pratiqué tous les genres.
Oui, absolument,
du fantastique, de la comédie musicale, du porno, on a du politique avec l'épuration après la Seconde Guerre mondiale, du romanesque pur...
Ouais.
Qui fait que ça... Le premier film que j'ai vu de toi, c'était Cœur à cœur. J'inverse toujours les deux. Et c'était, j'étais vraiment... Je l'ai vu à la télévision au Ciné Club, et ce film-là m'a marqué.
Alors on pourrait peut-être voir d'abord... on pourrait soit parler des films d'abord, soit parler ensuite de la maison de production Diagonale, comme tu veux. Bon, Diagonale, moi je veux bien, parce que ça m'intéresse déjà... de savoir comment les films sont faits, quels moyens, parce que d'abord il y a pas des acteurs qu'on a l'habitude de voir très souvent ailleurs. Apparemment, c'est un petit peu les acteurs de la galaxie Vécali, on pourrait dire. Et puis, des méthodes de tournage à petit budget, petit coût,
ou rapide. Comment tu procèdes?
Il ne faut pas tomber dans le piège habituel qui consiste à dire ils font des films à petit budget parce que etc. C'est pas ça du tout. On a toujours fait les films avec le budget qui leur était nécessaire. Jamais on a sous-payé les gens, c'est des bruits qui ont couru là-dessus. Jamais on a fait des dettes, jamais on a fait des crédits, on avait l'argent pour faire le film. Simplement, la grande idée, qui n'est pas neuve, je suppose, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que Julien Duvivier a fait 4 films en 36 et que ce n'était pas n'importe quoi. La grande idée, c'est de travailler beaucoup avant et pas pendant. Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui travaillent pendant. C'est leur droit. Finalement, il ne s'agit pas d'émettre une censure, quelle qu'elle soit. Mais nous, on avait l'habitude de travailler avant, de travailler avec l'équipe minimum, les gens payés tout à fait normalement, bien au-dessus du minimum syndical, mais avec une équipe minimum. Si on a besoin de 20 personnes, on ne va pas chercher 50, pour les principes de faire travailler du monde. Il vaut mieux faire un film avec 20 personnes que pas de film du tout avec 40. La valise l'aurait dit avant moi. Et donc, ce qui est très important, c'est d'arriver au moment du tournage avec tout le monde sur la même ligne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, plan par plan, de raconter le film à tout le monde. En revue toutes les techniques du cinéma, il faut chaque fois raconter le plan, raconter le film, raconter ses intentions. Pendant ce temps, l'heure tourne et puis on n'avance pas, on ne tourne pas. Voilà. C'est l'heure qui tourne et pas nous. Alors, nous, moi j'ai essayé de lancer cette idée-là, je l'ai appliquée dès mon premier film, dès les petits drames, de préparer beaucoup, de parler avant avec les gens. Et la raison de cette galaxie, elle est là, c'est que c'est quand même plus facile d'avoir, sous la main, d'avoir au bout du fil des gens comme Georges Trouvé, avec qui j'ai fait 42 films. Et quand j'écris un scénario, je l'appelle et je lui dis, voilà, je viens d'écrire telle scène, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois la lumière? Est-ce qu'on pourrait arriver à faire ça? On discute sur ce qui va être le tournage. Déjà, Roland Vincent, qui a fait 50 spectacles avec moi, qui est mon meilleur ami, évidemment, dès que j'ai une idée de film, il commence à écrire les thèmes. Et évidemment, on ne perd pas de temps quand le tournage arrive. Voilà la raison.
C'est une fidélité du point de vue des techniciens, là, donc se trouver à la photo.
Jean-François Chevalier, Roland Vincent,
la musique.
La musique. Pierre Sénélas, depuis 6 ans, mon premier assistant. Il dit ça fait 42 ans parce qu'il dit avec toi, c'est comme les chiens, il faut que tu les barcettes.
Pourquoi ça? Pourquoi?
Parce que c'est très intense, parce qu'on est en tournage, on est déjà en préparation, parce que voilà, c'est vrai que. C'est vrai que l'an dernier, j'ai fait 4 films, quand même.
On a l'impression, d'après ce que tu dis, que le tournage n'est qu'une formalité, quoi.
Ah, sûrement pas, non. Non, c'est un bonheur exquis.
Non, mais quand je dis formalité, quand je pense au travail, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que, justement, comme tout le monde est au courant de tout, il y a... Bon, ça arrive, comme avec... je suis pas un dieu, mais je veux dire que 9 fois sur 10, il n'y a pas de conflit.
Ah, d'accord.
Parce que les conflits ont été résorbés avant. Bien qu'il y ait des conflits, c'est productif un conflit, mais si on le fait pendant le tournage, on perd le temps du tournage avec des gens qui n'en ont rien à foutre des conflits. En plus, hein. Les comédiens, ils n'en ont rien à foutre, certains techniciens, l'ingénieur du son n'a rien à foutre du conflit avec le directeur photo. Voyez. Bon, là, il n'y en a pas de conflit parce que tout s'est pas résolu, parce que ça serait vraiment alors idiot, mais tout s'est débattu avant. Après, on peut encore, quelquefois, tout le monde sait ce qu'il a à faire, et puis au tournage, on jette tout, on recommence, mais chargé d'un vécu, d'un potentiel déjà qui concerne le film, et qui est entièrement le film déjà.
Cette galaxie aussi, elle touche pas seulement l'équipe technique, ça touche aussi les acteurs et les actrices.
Oui, bien sûr, oui, les comédiens.
Quand on voit un de tes films, on reconnaît des têtes qu'on a vues dans d'autres films.
Oui, sauf que maintenant, c'est de l'ordre de 200 ou 300, quoi.
C'est vraiment une galaxie.
Ça va devenir...
Non mais c'est vrai que Hélène Surgère, Noël Cipsolo, Michel Delahaye, ça sont des têtes qu'on ne voit pas très souvent ailleurs.
Ah, faut pas dire ça.
On les voit.
Faut pas dire qu'Hélène Surgère, on la voit pas ailleurs, on la voit beaucoup. Il a quand même fait 3 films avec des Chinés, dans Les Sorbrontés, où elle était absolument prodigieuse. Elle a fait des films même avec Zidi, enfin je sais pas si elle les a fait finalement, mais en tout cas elle a fait des films comiques comme ça avec Pierre Richard, elle a fait un petit rôle avec Jacques Demy, je pense même qu'Hélène, si elle avait voulu, aurait pu faire une carrière beaucoup plus prolifique avec beaucoup de gens, mais elle est un peu comme moi, elle est un peu têtue, c'est-à-dire qu'elle préfère peut-être faire un film, un court-métrage gratuit que d'aller tourner avec Belmondo.
Mais ça se sent qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu de l'audace, de l'expérience comme ça, parce que quand on voit un film comme Femme-Femme, en fait, un film comme Femme-Femme, c'est en France, je dirais, une expérience pas quasi unique, mais c'est un film extrêmement courageux. Parce que là, on a deux actrices.
Oui, mais le courage, vous savez, c'est bizarre, parce que nous, on ne l'a pas fait avec l'idée du courage, on l'a fait avec une inconscience totale. On dirait que c'est peut-être la même définition. Hein. Mais on a fait ce film en pensant peut-être qu'il ne sortirait jamais 50 000 francs. Et le film a coûté 50 000 francs. Avec, je dois dire, tous les gens en participation, sauf ceux qui avaient des problèmes graves et qu'on payait, on se réunissait, on disait, bon, ceux-là, ils ont des problèmes, on les paye. Mais avec cet argent-là, on a fait ce film. Je dois dire, j'ai rarement vu un tournage comme ça. Dieu sait que j'ai eu des bons tournages dans ma vie. Mais là, c'était le champagne toute la journée, les gâteaux à 4 heures. Il n'y avait aucun clan. Il y a toujours un peu des clans, même si on s'aime. Rien, tout le monde aimait tout le monde. Et on avait l'impression de faire un film de famille. Quoi. Puis ça a explosé à Venise, et je vais dire, parce que malgré nous, quoi.
Et ça se sent, cette complicité, cet aspect ludique comme
voilà, ça. Voilà, ça c'est un mot que j'aime bien.
Parce que ça se sent
complètement. On peut le reporter sur tous les films.
Tout à fait.
Tous les films. Tous les films.
Non, il y a un aspect de complicité ludique qui est très très important. Alors à partir de femme comme ça. Et en même temps, pourtant c'est un film étonnant où on passe allègrement d'aspect de comédie à des moments d'une violence et d'une intensité extrême. Alors effectivement, on a là deux comédiennes. Qui ressassent leurs souvenirs et qui passent sans arrêt donc de situations inventées avec Hélène Surgère qui boit beaucoup et du champagne et puis alors des personnages incroyables qui arrivent, Michel Duchossois de La Haye en passant par Sim Solo. Enfin, Sim Solo n'arrive pas, c'est plutôt elle qui va lui faire son ménage d'ailleurs. Et moi ça m'a beaucoup fait penser dans l'esprit à quelque chose qui est entre Jeunet et du billard, c'est-à-dire les bonnes, un peu de Jeunet, complètement. Et du billard, le côté un peu les duos de comédiennes qu'il a écrit complètement.
Je n'irai pas contre ces références.
Voilà. Alors, moi, comme c'est des références que j'aime beaucoup, de toute façon, j'ai pris un extrême plaisir à voir ce film. En même temps, je le trouve très, très, très violent. Il y a une intensité. Oui, comment ça s'est passé, le tournage de Femme? Alors, c'est de l'improvisation, c'est quoi?
Ah, non, pas du tout. Alors là, je vais vous dire, voilà, tout était écrit à la ligne près. Il y a deux choses improvisées. C'est la scène d'Andromaque.
Oui.
Où Sonia Savianche a improvisé en direct avec un langage à elle ou pas à elle d'ailleurs, un langage disons trivial, la situation d'Andromaque. Et c'est un exercice qui était critiqué par son ex-camarade de conservatoire, Hélène Surgère. Vous savez que dans le film, elle porte leur nom, leur propre nom.
Oui, tout à fait.
Plus facile.
Tout à fait.
Et donc Hélène fait après en direct la critique d'Andromaque, ce qui est assez rigolo, dérisoire et grotesque. Et puis en même temps, ça devient tragique parce que quand elle lui dit un enfant, etc., ben, Sonia a vraiment perdu un enfant et c'est en direct qu'elle a cette espèce d'éclat. Vous savez que l'improvisation, on ne la refait pas, hein, c'est une prise. Hein. Et je me revois avec mon pré-minutage à 1 minute 20, mais le film, le plan fini, 5 minutes 40.
Et j'ai tout gardé.
Ah oui, non, il ne faut pas. Je veux dire, là, on fait ça, on joue le jeu. Oui. Et puis la deuxième scène improvisée, c'est la scène finale où elle mange la chantilly, et où Sonia, je lui ai dit, quand tu as envie d'avoir mal, tu as mal, quand tu as envie de rire, tu ris, elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Mais là, ça a été monté en revanche. C'est-à-dire, on a fait 6 ou 7 prises, et on a monté après quelques instants, à l'aide des plans de
couple. Oui, ça se voit.
Mais vous savez, quand j'ai écrit Femme, et que Jacques Demy, on ne dira jamais assez à quel point il manque au cinéma français, et à moi, et à Agnès, sûrement, bien entendu. Encore plus qu'à moi, je suppose, m'a dit, mais je comprends pas, t'es masochiste, moi je t'ai qui tu veux avec ce scénario, j'étais Elisabeth Taylor, j'étais Jeanne Moreau, j'étais la vieille série, et j'ai dit non, je ne veux pas, il faut faire ça avec des gens qui le vivent, c'est-à-dire Surgère et Savianche, qui sont là, qui ne travaillent pas, qui ont des problèmes, qui ont envie d'exercer ce métier, qui ne peuvent pas l'exercer, avec quelqu'un comme moi qui les dirige et qui a envie d'exercer ce métier, qui a du mal à l'exercer. Mmh. Et là, on est dans une espèce de vérité qui me paraît la meilleure chance de donner un film intéressant. Pas un bon film, un film intéressant. Et en plus, moi, je le faisais dans l'esprit de lutter contre Salut l'artiste, où j'avais vu Mastroianni, qui est un très grand comédien, jouer un ringard pour 1,5 million, ça m'embêtait un peu.
Mais il y a un peu d'esprit, c'est drôle parce qu'on a vu tous les Cassavetes cette année. Moi, je trouve que, en voyant Femme comme ça, il y a quelque chose, un peu surtout dans les deux personnages de femmes. Hélène Surgère, elle est un peu matinée comme ça de Gina Roland et de Spoiler, complètement.
Moi, j'avais plus du côté de Marlène Dietrich.
De Marlène Dietrich.
Oui,
c'est drôle.
Ah oui, parce qu'elle a un décalage, elle a une vraie force tout de suite. Ça ne veut pas dire que Feuillère n'en a pas, mais Gina Roland, c'est quand même, pour moi, beaucoup plus fait sur le folklore que Surgère. Elle est plus probe, elle est plus directe, c'est une, pour moi, une actrice immense et une actrice qui ne va jamais sur le terrain des autres. Même si elle a, je dis, ce côté médiatrice dans le visage, dans la bouche, dans les pommettes, comme ça. Elle est... Mais Hélène est absolument incapable de la moindre trahison. vis-à-vis d'un rôle et de metteur en scène.
Alors il faut dire que ces deux comédiennes vivent dans un appartement avec des souvenirs d'une grande époque du cinéma que vous aimez beaucoup, à laquelle vous êtes très attachée, et des photos de stars partout. Ça va de Myrna Loy, si je me rappelle bien, à Marlène, Greta Garbo, Edwige Feuillère, Daniel Darieux, bien sûr.
René Saint-Cyr,
voilà, Annabella.
Gina Menez, pour rendre moins connu.
Voilà. Donc on va peut-être écouter Daniel Darieux dans une valse. C'est la valse de Madame II.
Je suis pas rapide, une coquetterie.
Ouais, ces deux-là sont toujours des derniers.
Qui est-ce?
C'est le baron de Tavanti.
Et elle?
C'est madame de...
Madame
de... Maxibus. Pourquoi tu as choisi cette morceau?
Parce que Paul Vecchiali aime énormément Daniel Darieux, que l'intégrale est sous-titrée pour l'amour de Darieux, que Rosa la Rose est un film superbe de Paul Vecchiali qui est dédicacé à Daniel Darieux, à Dora Dole, à Jean Renoir et à Max Ophüls. Et d'ailleurs, Paul Vecchiali peut nous expliquer peut-être pourquoi.
Le souteneur de Rosa, joué par Jean Sorel, l'a appelé Rosa la Rose en hommage à deux films qui sont Le Plaisir, le sketch de Maison Tellier, où Daniel Darieux s'appelle Rosa la Rose, et Héléna et les Hommes de Jean Renoir, où Dora Dole joue aussi un personnage qui s'appelle Rosa la Rose. Alors évidemment, c'est moi qui ai écrit le personnage de souteneur, donc ça passe aussi par moi, mais c'est un jeu, quoi, c'est encore plein, comme tu lui dis.
Et alors j'ai choisi précisément la valse, Salim, parce que dans Rosa la Rose, dans la chambre de Rosa, il y a une photo de plateau du tournage de Madame II, dans laquelle on voit donc Vittorio De Sica, Jean Boyer et Daniel Darieux. Et donc là, il y a une citation explicite du film. Et effectivement, Madame II, on le sait ici, à Fondue au Noir, c'est un film que nous adorons parce que nous aimons Ophüls.
Et
voilà. Voilà. Et nous avons consacré d'ailleurs une émission de 2 heures à Max Ophüls.
Avec Jacques Demy, on s'était d'ailleurs partagé Ophüls. Oui. Il avait pris le plaisir, il m'avait laissé Madame II.
Oui. D'ailleurs, il a dédié, enfin Lola, à Max Ophüls.
Oui, la petite musique du plaisir qui ouvre le film, finalement Lola.
On revient peut-être à d'autres films. Alors, on pourrait.
Je veux dire d'abord pour les auditeurs que. On gardera quelques minutes en fin d'émission et on fera un tour de ce qui va se passer donc au cinéma Rue de Boeuf du 2 au 11 décembre. On citera films, les heures et on rappellera l'adresse, tout ça. Donc vers la fin de l'émission, là on préfère parler un peu comme ça à bâton rompu avec.
De Paul Vecchiali. J'allais dire de l'œuvre de Demy. Oui, mais on a fait. On en a parlé 2 jours après le décès de Demy. On a fait un spécial Demy immédiatement.
Il y a le parapluie de Cherbourg qui ressort.
Oui. Et...
Tu es arrivé un petit peu en retard.
On a dit et on a passé un extrait des parapluies en début d'émission.
Ah, bah, ça,
voilà. Donc, Demy est un réalisateur maison pour notre émission.
Mais à tel point maison que hier soir, avec une soirée qui a duré très longtemps, c'est pour ça que vous m'entendez très peu parce que je suis un peu fatigué. On a pratiquement chanté toute l'œuvre de Demy, c'est une heure avancée de la musique. Voilà.
Faut dire que Salim revient du festival de Belfort et apparemment Demy était donc en grâce à Belfort.
Oui, enfin.
Et d'ailleurs, il passait, je crois, un des films préférés de Demy, c'est L'Aurore.
Oui, absolument. Hein? Absolument. Et comme j'ai. Là, c'est une parenthèse, donc on est là comme une parenthèse. L'Aurore de Murnau, dans le film, j'ai vu les parapluies il y a quelques 15 jours et il y a pratiquement. Parfois des petites ressemblances. J'en dirai pas plus, il faut aller voir les deux films.
Bien, on va peut-être revenir donc à Paul Vecchiali, dont l'œuvre est extrêmement personnelle, mais il y a différents mondes qui se partagent l'œuvre, votre œuvre. Déjà, moi j'ai envie que vous me parliez déjà des lieux de où se passe au film. Je pense notamment au Kremlin-Bicêtre, à la banlieue. Apparemment, vous y êtes très attaché.
Alors, j'y habite.
Voilà, vous y habitez.
Alors, vous savez, quand on est comme ça, un peu out du box-office, ce qui ne veut pas dire que les films ne rapportent pas, parce qu'il y a toujours une ambiguïté là. Out du box-office, ça veut dire être dans les derniers, dans les entrées, pas dans les recettes. C'est pas la même chose, obligatoirement. Enfin bon, ça c'est un autre discours, un autre combat. Mais quand on n'est pas sûr de trouver le financement, c'est un peu en autodéfense qu'on choisit des décors qu'on connaît et qu'on est sûr d'avoir. On dit ça au moins, ça ne coûtera rien. Quand j'écris Corps à cœur, j'ai fait habiter le personnage principal chez moi, travailler dans le garage qui est à côté,
Et quand je suis passé à l'Italie, que j'ai vu une pharmacie sublime, je suis allé voir la pharmacienne qui était corse, qui m'a accueilli à bras ouverts, et j'ai dit, Hélène Surgère sera pharmacienne. Et voilà comment les choses se font. Et c'est vrai que dans un débat, on m'a dit, pourquoi il est pharmacienne ? J'ai dit, parce que la pharmacie a accepté que je tourne gratuitement. Et la personne a cru que je me moquais d'elle. Alors que c'est une des bases du cinéma d'auteur qui recherche l'économie maximum pour mettre l'argent dans l'image, et non pas...
C'est comme ça, peut-être qu'on combattit petit à petit.
Oui, en même temps, c'est vrai aussi que maintenant, j'ai presque, depuis 20 ans, écrit l'histoire du Crâne de Bicêtre, parce qu'il est toujours en mutation, toujours en devenir, que le Café des Jules où j'ai tourné a été détruit, que c'est une place piétonne maintenant, que le garage de corps à cœur a détruit, qu'il y a un grand immeuble à la place, neuf, etc. etc. Vous voyez, c'est pas moi qui vais dire que le cinéma écrit l'histoire, hein, c'est vieux comme le monde.
Il écrit l'histoire et puis il est aussi le témoin de l'histoire.
Oui, bien sûr.
Les images qu'on voit, qu'on peut voir encore et qu'on verra. Donc,
mais il est d'autant plus qu'il ne s'en veut pas le témoin. Je veux dire, on peut faire un petit parallèle entre Grémillon et Renoir, par exemple. Grémillon ne parle que des sentiments des personnages et Renoir parle de l'idée politique. Quel est celui des deux qui vieillit ? C'est Renoir, c'est pas Grémillon. Le sentiment ne peut pas exister en dehors du contexte politique.
Mais je pense
parler du sentiment, c'est parler du contexte politique. Parler de la politique, c'est parler de la mode.
Je pense pas que Renoir parle de la politique, ça a l'essence.
Si, alors vous n'avez pas vu. La vie est à nous, vous n'avez pas vu Tony.
Mais je pense que La vie est à nous, c'est presque pas un mauvais cinéaste. Non, non, c'est un grand cinéaste, mais.
Qui a trop longtemps été l'arbre qui cachait la forêt. Et maintenant, il est temps de recenser les arbres derrière.
Grémillon est
temps.
Grémillon, c'est
grand. Racine.
Non, Grémillon, c'est très grand. Mais il y a un petit côté, d'ailleurs, la petite liste dans certains films, je trouve, un petit peu comme ça.
Peut-être. Moi, je ne sais pas. C'est vrai que Grémillon est, pour moi, je l'ai dit il y a pas mal d'années, ce qui a beaucoup fait rire Tavernier, mais c'est vrai. Pour moi, c'est comme un frère. Enfin, je sens des choses très, très confraternelles avec des gens comme Jacques Demy et Jean Grémillon.
Il y a le monde des hommes aussi, peut-être, parce que chez Grémillon, on a un film comme Maldon, par exemple.
Oui.
Maldon ou Gardien de Phare, c'est quand même des films où l'amitié masculine et l'homme est quand même au centre, et dans vos films aussi.
Pas beaucoup, non.
Pas beaucoup.
Les femmes, chez moi, qui ont le plus beau rôle, c'est très rare. Il y a peu de films où l'homme a le rôle principal.
Encore.
Oui, encore, il y a l'étrangleur, il y a la machine, et puis après...
On pourrait revenir, parce que quand même, sur ce monde des femmes et ce monde de l'homme, parce que dans le cinéma, c'est pas évident d'aborder l'homosexualité, c'est pas évident d'aborder les amitiés masculines,
ni même le sida. Je l'aborde pas, justement.
Oui, alors ?
C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de... Je n'aime pas les genres, en fait, je ne sais pas comment dire ça.
Oui.
Je ne sais pas. Si je réfléchis bien, je ne sais pas ce que c'est qu'un homme, je ne sais pas ce que c'est qu'une femme. Mais il me semble m'intéresser beaucoup à l'être humain.
Oui.
Alors que ce soit du sexe féminin, du sexe masculin, j'arrive pas à faire trop la différence. D'ailleurs, j'arrive pas à faire la différence quand on me dit, mais enfin, tu vois bien qu'il est vieux ou tu vois bien qu'il est jeune. Je sais pas. Et c'est sans doute une infirmité. Et c'est pas une façon de me poser. J'arrive pas. Après, on peut peut-être analyser et trouver des raisons comme ça. Mais a priori, je ne mets pas de pancarte. Je veux dire. Mm-hmm. Et si Once More, à l'époque, un peu comme ça. Énerver les gens, agacer les dents des gens, c'est parce que précisément il n'y a pas de différence entre le rapport de Jean-Louis Roland et François Giorgetti et le rapport de Jean-Louis Roland et Michel Gautier. C'est la conjugalité dans les deux cas.
Tout à fait.
Voilà. Mmh. Et alors pourquoi on dirait des choses différentes ?
D'ailleurs, bon, c'est quand même fort de voir que dans vos films, il y a effectivement une équité comme ça entre hommes et femmes, du point de vue de la réalité des sentiments, du sentiment amoureux. Mais on voit une chose qui, à mon avis, commune aux deux, c'est-à-dire homme comme femme, que la réalité du sentiment amoureux se constitue ailleurs que dans le cul, je dirais. Et c'est peut-être un des grands sujets de votre cinéma.
Oui, mais qui ne l'exclut pas.
Ah, qui ne l'exclut absolument pas. Mais il y a dans ton cinéma, enfin, quelque chose qui tient compte de cette réalité du cul, je dirais, on peut dire ça comme ça.
Un corps à cœur.
Un corps à cœur.
On parle du corps, non, il
y a... Voilà. Et en même temps, de cette réalité des sentiments qui se constitue ailleurs que dans le pieu.
Oui, bien sûr.
Et c'est, je crois, le grand sujet de ton cinéma. Me semble-t-il.
C'est pas du tout invraisemblable, parce que je pense comme ça.
Parce que c'est ce qui fait un peu le tronc commun de Corps à cœur, de Encore, de Rose à la Rose. Donc quand même de pas mal de films. Est-ce que
pour et puis alors une autre idée quand même, moi je sais pas pourquoi il me revenait une phrase de Bataille comme ça quand je pense à tes films, c'est quand même l'érotisme, ça va, enfin, c'est la transgression, c'est la vie, la transgression d'elle, jusque dans la mort, parce que quand même la mort est souvent là, présente au bout.
Eros Thanatos.
Eros Thanatos, oui alors.
Oui, bien sûr. Moi, on dit toujours, c'est un peu pour plaisanter, je dis ça, mais on dit toujours que la mort, c'est la petite mort. Et bon, c'est vrai qu'il y a une correspondance totale. C'est vrai que, de toute façon, pour moi, enfin, on le dit encore, non, Once More, je préfère le titre Once More. C'est pas du snobisme. Ils m'ont dit, la vie, c'est la mort. Enfin, c'est l'une et la face cachée de l'autre. Et là aussi, c'est pareil, on fait encore des territoires qui sont rigoureusement complémentaires et qui font un tout, au bout du compte. Alors, j'arrive pas à séparer l'un de l'autre, on sait très bien, même si on veut l'ignorer longtemps, mais si on l'ignore effectivement longtemps, dès qu'on commence à paraître dans la vie, que la mort est au bout du chemin, et que chaque jour on veut vieillir, je veux dire, bon, c'est de la palissade, mais c'est vrai qu'on passe son temps à chercher à l'oublier. Mm-hmm. Je sais pas, la politique, tout ça, c'est peut-être simplement des dérivatifs pour faire croire qu'on est éternel, pour faire croire que la mort ne nous guette pas, qu'elle n'est pas au bout du voyage. Et s'il y a quelque chose, je crois, qui existe dans mon cinéma, c'est que précisément, on n'oublie jamais que la mort est au bout du voyage.
Et c'est ce qu'il y a dans le personnage de Louis, dans Encore, surtout, c'est peut-être le plus présent, il dit en fait, la mort, ça fait partie de la vie. Et il y a quelque chose de la nécessité, de l'urgence, du bonheur dans l'immédiateté, dans le présent. Oui, dans tout, ça. Alors là, dans tous les films. Dans tous. Hein, il faut le désir, parce que c'est. D'ailleurs, le désir comme le sentiment amoureux, ça doit être vécu dans l'immédiateté. Il y a une urgence incroyable.
J'aime bien ça.
Corps à cœur, c'est incroyable. Enfin, il va camper pour voir un type amoureux qui va camper devant la boutique de la pharmacienne. Il ose des choses qu'on ne voit
pas. Oui, surtout qu'il ose sans pathos, je veux dire.
Absolument.
Il est pas,
c'est assez drôle.
Il pleure pas, hein, c'est une séquence qui est plus comique que. Même si à la fin, il y a une espèce d'émotion qui sourde chez Surgère. Une très très jolie émotion dans son œil. Je ne remercierai jamais assez d'avoir fait ce film comme ça. Parce que, repenser à ce que ça aurait été avec d'autres comédiennes, hein. On ferait rien.
Ouais, c'est un cinéma assez en pente dangereuse, parce qu'il va quand même à l'encontre de tout un naturalisme qu'on voit aujourd'hui.
Oui, parce que nous, Hélène, Nicolas, Hélène Surgène, Nicolas Silver, faisons pas de l'élitisme. Sont des gens qui ont, comme moi, horreur du naturalisme, horreur de faire croire aux gens qu'il n'y a pas de caméra. Non, on joue pour la caméra. La caméra est un personnage essentiel au cinéma et l'ignorer est un mensonge.
Ouais.
C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais de théâtre, théâtralité, j'étais un peu comme ça, un peu agacé intérieurement parce que.
On reviendra là-dessus parce que je pense qu'il y a des films quand même dans lesquels l'espace, en tout cas, est plus désigné. Ben, parce que c'est évident que le théâtre, c'est beaucoup plus statique du point de vue de l'espace que le cinéma.
Je n'y crois pas beaucoup à ça, parce que on a des plateaux tournants, des moyens au théâtre, quand les gens ont des moyens énormes, qui font croire justement et qui font penser, et les gens avalent très très bien qu'il y a un espace éclaté. Alors que le cinéma, justement, lui, il ne peut pas éclater trop loin, puisqu'il y a le cadre.
Voilà, oui, il y a le cadre.
Il y a du pour et du contre dans cette séparation théâtre-cinéma, j'y crois pas beaucoup.
Mais en fait,
c'est Pasolini qui disait « Femme-femme est un ménage à trois entre la vie, le cinéma et le théâtre
». Il y a tout à fait signé, quand même.
Ah oui, bien sûr.
Andromaque, d'ailleurs, c'est pas pour rien.
Oui, et Bérénice.
Bérénice, oui. On va peut-être écouter, non pas Maurice Chevalier, mais Charles Trenet, Jacques.
Merveille.
Voilà, j'ai un rendez-vous. C'est Charles et Johnny qui chantent, sont les tout débuts de Charles Trenet. Ça doit être un enregistrement des années 30, 36. C'est calé, c'est bon, ça part. J'ai un rendez-vous, ce n'est pas Chevalier qui chante, mais c'est Trenet.
Ici le micro de l'Ardeau. Chers auditeurs, nous avons là sous les yeux, Johnny et moi, une chanson de Ray Pinky Horsner qui s'appelle « J'ai un rendez-vous ».
Elle est bien cette chanson.
Oui, elle est très jolie. C'est une chanson vraiment très bien réussie.
Ou avec Léa en face de l'opéra, c'est pas le loup et l'opéra.
Oui, mais c'est tout à fait
une chanson pour Chevalier, ça.
C'est tout à fait pour Maurice Chevalier.
Oh, mais il faut
écoute, attends, j'ai une idée.
Non, je vais essayer de l'interpréter à la manière de Maurice Chevalier.
Ah, vous voyez, vous êtes accompagné alors.
Oui, accompagné.
Vous devez vous dire qu'à certains moments, le spectacle de la musique et que soit d'avoir du tempérament. J'avoue qu'il est fantastique, des dégâts jalés, des milliers de sang, mais où ma vie se complique,
Et quand il s'agit de les distinguer, ainsi aujourd'hui, je suis intrigué. J'ai un rendez-vous, mais je ne sais pas où, à 7h30. Oui, mais avec qui? Est-ce avec Susan, près de l'Odéon? Ou avec Léa en face de l'opéra? Ce n'est pas Loulou, elle est au Pérou, ni la petite Lucie, puisqu'elle sort d'ici. Alors c'est Rosette, mon Dieu que je suis bête, elle est en Écosse en plein voyage d'os. Quand on va fréquenter tant de maîtresses, il faut de la mémoire, et je ne sais même plus à quelle adresse on m'attend ce soir. Essayons encore, est-ce Léonore, Carmen et Cléo, oh quel mélimélo, j'ai beau réunir tous mes souvenirs, je ne sais plus du tout où est mon rendez-vous. J'ai numéroté les femmes que je connais, mais c'était trop difficile, je les ai classées d'après l'alphabet, ça n'était guère plus facile. Alors j'ai noté sur un petit carnet leur nom et leur domicile. Mais je l'ai perdu, et voilà pourquoi je me creuse la tête pour la centième fois. J'ai un rendez-vous. Ah oui, mais je ne sais pas où. À 7h30, oui, mais avec qui? Est-ce avec Susan, près de l'Odéon? Ou avec Léa en face de l'opéra? Oh non, non, c'est pas Loulou, elle est au Pérou. Oh, dis la petite Lucie, oh, puisqu'elle sort d'ici. Ah, alors, c'est Rosette, oh, mon Dieu que je suis bête. Elle est à l'école, en plein voyage de noces. Quand on veut fréquenter tant de maîtresses, il faut de la mémoire. Et je ne sais même plus à quelle adresse on m'attend ce soir. Essayons encore, voyons, est-ce Léonore, Carmen ou Cléo? Oh, quel mini-mélo, j'ai beau réunir tous mes souvenirs, je ne sais plus du tout où est mon rendez-vous.
Allez, applaudissez, on va l'applaudir.
Radio Libertaire 89.4, hein, en compagnie de Paul Vecchiali, pour Cinéma en Diagonale, pour L'Amour d'Arieux. Ça commence mercredi, ça dure une grande semaine, du 2 au 11 décembre, et c'est au cinéma Rue de Boeuf à Clichy. On vient d'entendre un duo célèbre. Là.
C'est-à-dire qu'on vient d'entendre un monsieur qui chante comme Maurice Chevalier, mais qui n'est pas Maurice Chevalier.
Ah, c'était pas Charlie Johnny?
Non. Si, si, c'est-à-dire que c'est Johnny S. au piano.
Voilà.
C'est Charles Trenet qui chante dans une imitation de Chevalier. Ce sont les tout débuts de Trenet, voilà. Donc un petit plaisir qu'on se fait comme ça, on entendra peut-être encore traîner tout à l'heure, et Marianne Oswald que j'ai amené, parce que j'ai pas résisté, j'ai trouvé un CD de Marianne Oswald, j'ai craqué. Donc, on revient.
Retour sur le,
à l'œuvre de Paul Vecchiali.
Sur le théâtre et la théâtralité, parce que la discussion, elle est bon train au Montagne.
Non, c'est sûr que le c'est du cinéma avec Vecchiali. Mais il n'y a pas de doute là-dessus, c'est pas statique, hein, bon, y a une, c'est complètement... Mais il y a des films, je pense notamment à Encore,
Once
où il y a un parti pris Once More, où il y a un parti pris de plans séquences dans des lieux très précis, très déterminés, avec des personnages à chaque fois qui entrent dans le champ de manière très précise, donc il y a des choix qui sont bien déterminés, qui effectivement rappellent, si tu veux, des choix très déterminés aussi du théâtre. Également dans le Café des Jules, Unité d'espace, très peu de personnages, donc il y a quand même comme ça des partis pris de désignation des lieux, de choix d'espace, du nombre d'acteurs, de la concentration de la scène, bon, la manière dont vous avez traité ça. Alors, pourquoi 10 plans séquences par exemple dans un film comme Once More?
D'abord il n'y en a pas 10, il y en a plus que ça, parce qu'il y en a 9, et puis la dernière bobine, comme on dit, oui, dernier acte, si on veut dire, si on peut faire venir tête, c'est des petits bouts de scène éclatés qui marquent que précisément le héros est en train de mourir,
oui,
l'univers est en train de se défaire, et on a chaque fois quand même un tout petit plan séquence, décor par décor, sauf le dernier où il y a un faux champ contre champ, qui avait fait dire à Friedrich Strauss que c'était refait dans un œil mort. Mais c'est une très jolie critique sur le film. Pourquoi ça? Parce que je pense que quand on fait du découpage classique, chant contre chant, ou bon, changement, le monsieur il sort de la pièce, alors la caméra est dehors, etc. La caméra elle n'est pas tout de suite dehors. Il faut couper, il faut aller changer la caméra de place, il faut envoyer l'acteur se remaquiller, il faut refaire les lumières, et immanquablement il y a une coupure. Qui dit coupure dit ellipse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire croire au spectateur qu'il n'y a pas eu ellipse.
C'est-à-dire, on va bien raboter le son, on va faire les lumières soient bien raccord, l'étalonnage, pour faire croire que, quand l'acteur est sorti de cette pièce, comme par hasard, il y avait une caméra qui l'attendait et qui a pris la suite du discours. Voilà, bon. Pourquoi pas, j'ai rien contre ça, puisque je le fais, tout le monde le fait. Mais, à partir du moment où on a conscience que chaque changement de plan est, quelque part, une ellipse, et dans peut-être ce qui est l'essence du cinéma, c'est-à-dire la communication de l'acteur avec la lumière, et puis avec le spectateur après, il faut se dire, attention, si je fais un film sur 10 ans, qui va exprimer la vie de à peu près une huitaine de personnes pendant 10 ans, est-ce que je vais me laisser bouffer par les ellipses de la technique? Non. Donc je dis, Once More, c'est l'histoire d'un homme qu'on vient voir tous les ans, le jour de l'anniversaire de sa fille. Je vais faire un plan séquence par année, de façon à ce que l'ellipse soit le saut d'une année à l'autre. À ce moment-là, je la contrôle. Plus ou moins bien, mais je la contrôle. Et je me souviens que dans la séquence du Loft, quand on le retrouve chez Nicolas Silberg, où sa femme vient le relancer, et où ils attendent une suite de leur fille, nous étions pris par autre chose, on tournait de nuit, on n'a pas pu aller voir au laboratoire, on a donc téléphoné au gars du laboratoire qui m'a dit, ce n'est que en rentrant chez moi dans la voiture que je me suis dit, merde, il n'y a qu'un clope. Il avait eu l'impression d'avoir vu plusieurs plans monter. Voilà. Et c'est vrai que Jean-Luc Godard, qui m'avait demandé la cassette pour voir le film et savoir comment je traitais les plans séquences, m'a dit qu'il m'a fallu 3 visions pour me rendre compte qu'il y avait des plans séquences. Que c'était des plans séquences.
Ça se voit, je ne peux pas dire qu'on le savait.
Je peux vraiment, je donne le nom du gars du laboratoire GTC, il m'a téléphoné pour me dire, c'est dans la voiture. J'ai dit, mais il n'y a qu'un clap, donc il n'y a qu'un plan. Et c'est vrai que la caméra fait les champs contre champs par des mouvements, et que ce n'est pas des mouvements brutaux, et que c'est très très sournois, la mise en scène de Once More. Et je ne sais pas si on peut faire plus cinéma que ça.
C'est parfois complètement de la chorégraphie, d'ailleurs. Il y a quelque chose du ballet.
Je crois que la mise en place d'un plan, quand les gens ne sont pas... Duracien, ce qui n'est pas un défaut, ça relève de la chorégraphie. Vous savez, la mise en scène, c'est jamais rien d'autre que la mise en place de coïncidences.
Il y a un moment donné, dans Once More, quand il y a le mariage d'Anne-Marie, et qu'ils chantent tous, qui m'a complètement rappelé la comédie musicale américaine, notamment Donen. J'ai pensé à Pique-nique en pyjama.
Oui, à part qu'il y a...
C'est assez bizarre, mais...
Il y a là, sur la thématique du plan, moi, c'est un... Je pense que c'est un des moments où j'ai le plus réussi mon rapport au cinéma, avec cette séquence-là, parce qu'il y a un vrai discours filmique derrière un discours apparent, d'anecdote. D'abord, on part de l'intérieur, comme ça, où il y a deux personnages qui se parlent, et puis on va finir avec 200 personnes, dans le même plan. Et la chanson que chante Jean-Louis Roland est une chanson qui est quand même une provocation extrême.
Tout à fait.
Mais ce qu'il vient de dire... à la toulipe qu'il avait le virus, que son ami le sait sûrement parce que c'est pas un garçon malhonnête. Donc on est là dans la situation un peu délicate d'un monsieur qui dévore le sida alors qu'il est en train de marier sa fille, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la cérémonie la plus hétérosexuelle qui soit, et la plus bourgeoise qui soit, c'est la création d'une cellule familiale, et on a la caméra qui monte, et qui montre, dessinée par terre, une ellipse qui est la figure du film, dont les foyers, pardon, on va faire un peu de mathématiques, sont deux hommes amants au sein de cette cellule familiale qui est en train de se créer. Donc il y a un travail, je dirais, du discours filmique qui j'espère ne gêne pas la lecture de l'anecdote, mais qui la sous-tend et la nourrit constamment.
Et c'est très intense parce qu'effectivement, ce travail en plan séquence, ça permet comme ça une intensité dramatique à l'intérieur de chaque année, en fait.
C'est-à-dire que rarement comme là, les acteurs sont aussi solidaires les uns des autres, parce que c'est se tromper, c'est faire tromper l'autre, c'est mettre en péril un plan qui peut être très réussi sur le plan technique, et c'est plus facile d'être juste dans un plan fixe qu'en mouvement comme ça, avec des places très très précises, parce que c'est pas comme au théâtre. Au théâtre, si on loupe la lumière, on l'aura demain. Au cinéma, on ne peut pas faire 40 prises, on le sait, dans des films comme ça, parce que ça s'use. En plus, le plan séquence s'use terriblement si on le fait beaucoup. Après, ça devient mécanique, alors ça n'a plus aucun intérêt. L'intérêt du plan séquence, c'est de conserver justement un pan de vie et de le restituer au spectateur.
Alors ce type de mouvement chorégraphique, on le retrouve aussi dans L'Étrangleur. Il y a une séquence étonnante dans un truc de marin, une chanson où je voudrais être marin, ce qui va peut-être
je me ferai marin.
Ce qui fait que, je ne sais pas, si on écoute Marianne Oswald, Mes sœurs n'aimaient pas les marins, ou bien La fille de l'Orient chantée par Trenet, qu'est-ce que vous préférez, Vicky?
Oh, je m'étais gardé, on a entendu Trenet, faisant la tête.
Alors, Marianne Oswald, Mes sœurs n'aimaient pas les marins. Jacques, s'il te plaît.
Marianne Oswald ?
Oui, Marianne Oswald, grande dame, quoi.
Grande dame, grande chanteuse ?
Ouais. Ça faisait longtemps que je cherchais les disques Marianne Oswald, j'en avais en cassette. Et puis là, en CD, j'ai découvert qu'il y en avait 20 et quelques d'un coup qui étaient ressortis.
Donc,
j'ai fait table rase, là.
À vos enregistreurs,
Oui, on entendra beaucoup mes dernières trouvailles, savoir Charlotte Johnny, Marianne Oswald, et puis Paula Negri, qui chante, puisque... ça aussi, c'est des trucs, des raretés comme ça qu'on trouve en fouillant. Et c'est des raretés sur lesquelles il faut se précipiter parce qu'avant, après, on ne les voit plus pendant des années. Donc voilà. Alors, on pourrait revenir donc toujours au cinéma de Paul Pécali, puisque au Rue de Bœuf, à Clichy-la-Garenne, donc l'intégrale de Paul Pécali, cinéaste à découvrir, qu'on ne connaît pas toujours très bien.
Je pense qu'on ne connaît pas, mais quand on voit un film, on s'en souvient.
Oui.
Et c'est le genre de cinéma qui laisse des marques, qui laisse des traces, qui te
noue un peu. C'est un cinéma très construit, très pensé. Ouais. Il y a, même s'il y a quelques moments d'improvisation, il n'y a rien qui soit laissé au hasard. Je crois que...
Bon, c'est travaillé, mais en même temps, justement, je m'excuse un peu de te contredire, mais ma grande phrase, c'est il faut laisser entrer le hasard.
Oui.
il faut travailler beaucoup, mais laisser toujours la possibilité au hasard de rentrer sur le plateau, de faire... je veux dire, moi, il y a un truc qui m'émerveille dans Les Ruses du Diable, par exemple, et le son direct aide beaucoup à ça, c'est Ténier qui fait « waouh » à une comédienne, elle se retourne, elle fait « waouh », et derrière, on entend « bling », c'est une demi-heure qui sonnait par la pendule. Ça, c'est fabuleux, je veux dire, il n'y a pas un musicien qui aurait osé ça, quoi. Voilà, moi, j'adore ça.
Et c'est drôle parce que, effectivement, et Salim le soulevait en début d'émission, tu as travaillé sur ce qu'on pourrait appeler plusieurs genres, parce qu'à mon avis, il y a quand même... tu renoues avec, disons, le mélodrame.
Oui, Rosa.
Rosa. Hein.
Pas corps à cœur.
Pas corps à cœur, non. Mais en tout cas, Rosa, oui.
Corps à cœur, c'est un film romanesque.
C'est un film romanesque.
C'est une vraie tragédie, parce que c'est les gens qui s'inventent leur malheur.
Oui, oui. Mais.
Faut bien vivre aussi.
Dans Rosa, elle le fabrique aussi. Et. Enfin, Rosa, c'est un film que j'aime. Oui, elle est victime de ça.
Et oui, elle est victime parce qu'elle est victime de l'image que les médias ont fait d'elle. Elle s'estime, dans la première partie, elle est Rosa la Rose, c'est-à-dire la partenaire idéale du client. Mm-hmm. Elle est malléable, c'est comme une pâte à modeler. On lui demande de faire ça, elle fait ça. Elle n'y voit ni perversité, ni saleté.
Elle est restée extrêmement candide. Oui.
Et tout d'un coup, quelqu'un arrive pour lui faire comprendre le métier qu'elle fait. Ouais. Et en même temps, c'est celui qu'il aime. Ouais. Et là, elle se sent fille maudite. C'est-à-dire, oui, Rosa la Rose, fille publique. Voilà. Et là, elle change de genre, et fouillant dans sa mémoire de spectatrice, puisque son souteneur lui montre des films à la campagne, elle se voit Viviane Romance, alors qu'avant, elle se voyait Madame Osray. Je veux dire, c'est ça le film. C'est vrai, des fois on me dit « Ah oui, mais ça continue pas ». C'est vrai que Rosa la Rose est davantage un film sur le cinéma que sur la prostitution, ou sur les médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de vivre avec les images que les médias font de nous, de nos métiers, de notre quotidien. C'est très 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 difficile de ne pas vivre sans y penser, sans se laisser influencer par ça. Ouais.
Et donc, Rosa la Rose, il y a quand même donc la rue Saint-Denis qui est tout le petit milieu comme ça des Halles, qu'on voyait déjà dans Irmana 12, que je trouve qu'on retrouve beaucoup de choses d'Irmana 12.
Oui, oui.
Et en même temps, du point de vue du mélo, on est presque du côté d'un cinéaste que moi j'adore et d'un film auquel je n'ai pas pu m'empêcher de penser, c'est Comme un torrent. La fin surtout. Espèce de fête foraine, de mouvement comme ça, qui va aller jusqu'à la mort de Rosa. Parce qu'elle se jette sur la mort. Ou la mort se jette sur elle, plutôt elle qui se jette sur la mort.
Elle se jette sur la mort, oui, mais sans le savoir.
Ouais.
Inconsciemment, elle dit cette phrase qui fait beaucoup rire. Elle dit à Jean Sorel, tu m'avais dit une chance sur 1000 et j'ai préféré une chance sur 2. Ce qui est complètement absurde, parce qu'une chance sur 2... Il n'y a pas une chance sur deux, on ne peut pas choisir entre la mort et la vie, parce que la mort est debout, comme on a déjà dit. Mmh. Et elle, dans cette espèce de naïveté, elle dit « j'ai choisi une chance sur deux ». C'est-à-dire, je me suis fait planter le couteau en me disant « je meurs ou je vis ».
Alors c'est terrible, parce que le jeune à qui elle demande de lui planter le couteau dans le ventre, je veux dire, c'est horrible.
Elle lui fait une vacherie terrible.
Hein. Oui, c'est horrible.
Vivre avec ça.
Non seulement elle le dépucelle, mais en plus elle le fait la tuer. Je veux dire, c'est... Je ne voudrais pas être à la place de ce jeune, c'est tellement lourd à porter.
C'est très dur, c'est un personnage très...
Ouais, très attachant.
C'est un personnage qui à mon avis, et je ne considère jamais que c'est une qualité ça, mais c'est un personnage, je crois, unique dans la dramaturgie et dans l'équipe des personnages comme ça, qu'on peut trouver même dans les romans. Le personnage de Laurent est un personnage qu'on voit rarement, comme le personnage, je dirais, de Séverine, dans Séverine Vincent. Qui joue Immondice dans Once More.
Oui.
Ce sont des personnages qui n'ont pas d'équivalent, je crois, en littérature.
Oui,
même.
Oui, oui.
Je répète, ça veut dire que c'est une qualité, mais c'est toujours intéressant de travailler sur un terrain neuf, comme ça, neutre.
Oui, oui.
C'est peut-être eux le doigt du hasard, parce qu'ils sont portés un peu par une histoire dans laquelle ils sont spectateurs, et à tout prix,
oui,
ils veulent les directeurs, et l'histoire les rattrape, et ils sont portés comme ça par le
hasard. C'est vrai,
tout à fait.
C'est absolument ça.
Il y a quelque chose là qui rejoint le grand mélodrame hollywoodien, je trouve, et en même temps qui fait éclater, même pas parce que le grand mélodrame hollywoodien, enfin, film comme un torrent, moi je pense que ça déroge à beaucoup de règles. Mais,
c'est un film magnifique.
Ah ouais, c'est un film que moi j'adore. Et je trouve que Rosa la Rose est complètement dans l'esprit de comme un torrent. Il y a la même candeur et innocence.
On ne l'avait jamais dit, mais c'est assez vrai. En revanche, corps à cœur, moi je le vois. Plutôt dans la filiation Grémillon, genre Gueule d'amour.
Oui. Gueule d'amour, complètement.
Ouais, c'est vraiment...
Complètement, complètement. D'ailleurs, là, elle ressemble plutôt à Mireille Balin qu'à que ce soit d'autre. Hein, elle est surgère. Et c'est vrai qu'elle a des côtés comme ça un petit peu. On ne sait pas trop sur le personnage d'Hélène Surgère dans Corps à cœur si elle ne joue pas de lui.
Elle joue complètement, inconsciemment. C'est une femme qui veut qu'on respecte son territoire, et à partir de là, elle pense que tout lui est permis. Et elle le fait avec une âme moralité confondante qui lui le met par terre. Comment une femme peut-elle lui dire ce qu'elle lui dit, si vous revenez, j'appelle la police, le voir le lendemain à sa porte, venir vers lui en souriant, lui dire « Ah, bonjour, je peux pas rester avec vous parce que j'ai rendez-vous avec mon neveu. » Voilà. Là, je dis, le mec, il est quand même azimuté. On comprend qu'il prenne sa voiture, qu'il faut le garder en Normandie parce que... Et en même temps, on ne peut pas dire elle le fait exprès, c'est pas vrai. C'est comme ça, c'est en elle.
Oui, c'est en elle, mais elle fait mal, quoi, en même temps.
Elle fait très très mal, mais pas, je pense que c'est pas du tout volontaire. Elle dispose des gens, quoi, c'est comme ça.
Il faut dire aussi qu'il y a une différence sociale entre deux.
Oui, mais sociale, certes, mais une différence surtout d'assimilation de culture.
Oui.
Elle a, elle, une culture qui est complètement installée, je dirais assimilée, et lui, il a une culture instinctive, fruste, il va plus loin que la première. Elle le sait, elle s'en aperçoit très très vite, elle s'en aperçoit surtout quand ils sont dans le milieu ensemble, et tout d'un coup, il arrive toujours là où elle ne l'attend pas. Il va même jusqu'à la dérision, parce que cette séquence où il descend en guêpette et en salopette dans le restaurant hyper chic, en ayant les gestes qu'il aurait eu s'il avait eu sa cravate, son nœud pape, son haut de forme et tout, c'est un phénomène de dérision. Et la dérision, c'est quand même lié à la culture, ça ne peut pas venir du néant. Et là, elle est complètement... Elle est cernée de tous les côtés, quoi.
On va écouter une chanson très dérisoire ou très drôle, en tout cas burlesque un petit peu, Sous le lit du lit, Jacques.
C'est encore nous qui revenons devant vous, vous divertir d'une chanson nouvelle, approchez-vous, car plus on est de fous, plus on s'amuse à faire nos mauvais coups. Des mauvais coups, mais aussi des bons, par exemple, quand nous vous conseillons d'écrire tous et d'écrire toutes, vous demandez le catalogue de la redoute. Ici, le micro de la redoute à Roubaix, qui vous permet d'écouter cette semaine le quart d'heure des enfants terribles, présenté par Charles et Johnny. Au piano d'accompagnement, mademoiselle Jannick Léonec. Mes amis, nous allons vous chanter tout d'abord une chanson qui est une parodie de chanson américaine qui s'appelle Sous le lit Lily.
Charlie Johnny, une chanson un peu pour rigoler comme ça. J'avais pensé aussi que ça pouvait être une chanson idyllique parce que dans Femme, il y a quand même une grande séquence où Sonia Savillange voit des bébêtes comme ça. Elle a d'abord demandé à Michel Delahaye comment, en tant que comédienne, elle pouvait travailler l'alcoolisme. Alors, il lui donne des tas de conseils sur l'évolution de l'alcoolisme. Et Paul Vécali vient de nous dire dans le studio que c'était un texte médical, tout ce qu'il y a de plus sérieux.
Oui, c'est un texte complètement sérieux.
Que dit Michel.
Je retranscris.
Que dit Michel Delahaye. Et donc, elle va évoluer comme ça vers le délirium. Et on va avoir comme ça des visions d'iguanes, de chauves-souris, enfin, tout un bestiaire assez étonnant. Et donc, je trouvais que sous le lit de Lily, comme elle cherche sous le lit désespérément des iguanes, ça allait tout à fait bien. Puis c'était le plaisir d'écouter ce traînet que j'ai redécouvert donc, dans une boutique il n'y a pas longtemps. Oui, c'est que dire à propos du cinéma de Beccaria, parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a la magie. Il y a la magie dans L'Étrangleur, qui est un film du côté du rêve et en même temps qui est un film terrible. Mmh. Et moi j'aimerais qu'on parle peut-être des derniers films, c'est-à-dire Le Café des Jules. Bon, il y a encore Le Café des Jules. Le Café des Jules, parce que là, je dirais, bon, quand j'ai vu ça, alors espace fermé, le café, unité de temps, très peu de personnages.
Des temps de vie et d'action, hein, pour une fois, c'est vrai.
Hein, complètement, donc on est quand même dans...
C'est quand même un texte de Jacques Nolot, il faut le dire. Ouais. Hein. C'est un texte qui a été écrit par Jacques, qui hésitait à jouer le rôle principal, je vais le persuader, parce que je trouve qu'il est formidable dedans. Et puis surtout, il y a Brigitte Rouen, qui est absolument faramineuse, dans un rôle tellement difficile.
Ouais.
Tellement dur.
Christiane. Et Le Café des Jules, c'est un film qui m'a scié parce que je trouve ça terrifiant. On est en plein dedans, peut-être aujourd'hui, je sais pas, la Beaufrie, Le Pen. Ouais, et en même temps,
moi, je dirais pas ça. Je dirais qu'on peut comprendre à partir de ce film comment il y a un électorat Le Pen. Mais en même temps, le regard n'est pas porté là-dessus, à mon avis. Je crois qu'il est plus tendre que ça.
Ah ouais, tout à fait.
Parce que ces gens sont des gens seuls, désespérés, qui essaient vainement de reconstituer une cellule familiale artificielle, où on retrouve le pouvoir, qui est mené par Jeannot, joué par Jacques Nolot, on retrouve l'enfance, Patrick Reynal, Jean-Robert, on retrouve le clown, joué par Raymond Aquillon, etc. Et il y a dans ce film, je crois, un regard sur la part d'enfance que le désespoir ramène en chacun d'entre nous, au-delà de la saloperie qu'ils vivent et qu'ils font et qu'ils incarnent. Je crois que le plus grave de tout ça, c'est que ce sont des sentiments justes et forts qui vont les amener à faire des actes horribles et abominables.
Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, le fait de se retrouver dans ce café où on boit, le fait de boire des baby après baby, ça révèle tout d'un coup, il y a une nudité des sentiments, une nudité qui apparaît. On va vers la vérité tout d'un coup. Et donc, il n'y a plus de frein et les personnages laissent sortir des choses qu'ils contrôleraient peut-être habituellement. Et là, c'est quand même un peu terrifiant. C'est-à-dire que dans le film, on passe effectivement de moments extrêmement tendres, forts, etc., à des moments d'une violence incroyable qui va aller jusqu'au... Quand je dis violence, ça va jusqu'au viol. Ça.
Pseudo-viol, parce que comme il n'arrive pas à bander, c'est difficile.
Oui, mais c'est quand même assez terrifiant.
Mais l'intention y était.
C'est même là où je trouve le plus terrifiant, c'est quand il se regarde dans la glace. Ouais. Quand il se regarde dans la glace, ouais. En train d'essayer de la violer, constater son... C'est tout d'un coup, là...
Et le regard de Brigitte Rouen, après le viol, moi j'aimerais pas qu'une femme me regarde comme ça une fois dans ma vie.
Ouais.
C'est extraordinaire.
Il y a quand même... Ça se retourne, l'alcool et le fait que Jeannot se trouve perdu tout frein, comme ça, se retourne sur la femme et sur le juif aussi, sur David, hein, qui est exclu. Enfin, quand on lui prend toutes ses affaires, sa lingerie, etc., dans cette séquence qui d'ailleurs est incroyable et qui est quand même très drôle, où ils se travestissent tous avec le linge de la lingerie. Tu l'as vu, le café des Jules ? Et c'est quand même assez incroyable. Mais en même temps, c'est vrai que le film est de la tendresse, mais je le trouve. Terrifiant, c'est une nuit de cauchemar quand même.
Oui, je dirais qu'on est mal tombé, quoi. C'est-à-dire que. Non, c'est vrai, le samedi d'après, ils iraient peut-être tous ensemble refaire l'appartement de Christiane. C'est ça qui est affreux, quoi.
C'est pas oui.
Non, c'est vrai, c'est des gens qui sont là. Puis... Bon, alors, bon, aujourd'hui, allez, on va aller refaire ton appartement, on amène la peinture. Et ce soir-là, ça va pas, parce qu'il y a le spectateur. Le spectateur, quand on arrive comme ça, moi j'ai vécu ça en préparant L'Étrangleur. J'allais n'importe où, dans une grande banlieue lointaine et tout. On rentre dans un bistrot. On s'aperçoit que très vite, la comédie se joue pour vous parce que vous êtes l'étranger. Oui, là, on se tire ou on s'intègre. Mais si on ne s'intègre pas et qu'on ne se tire pas, ça peut aller très loin. Ça peut faire très loin.
Ils sont en représentation.
Ils sont en représentation et ils jouent pour vous parce que vous êtes l'étranger, parce que vous êtes le témoin aussi.
Oui, oui. Enfin, c'est un peu terrible. Enfin, ce bistrot, on n'a pas trop envie d'y aller. Puis alors, il y a quand même... des représentations.
Tu veux dire dans le bistrot en question,
oui, dans le film. Non, dans le film, dans le bistrot, pas dans le film. Mais je trouve que tu oses des audaces incroyables, c'est-à-dire sur le machisme, le racisme, mais il y a aussi des audaces, je pense, tout d'un coup, à encore la manière dont l'inceste aussi est amené.
Ah oui, d'ailleurs, mais c'est une blague parce que là, elle dit je t'aime, baise-moi à son père, parce qu'elle veut plus qu'il la traite comme une petite fille.
c'est une provocation totale et primaire de ouais. dire à ouais. une fille, de dire à son père, baisse-moi, ça veut lui dire, je suis une femme et tu t'en es même pas aperçu.
C'est la manière dont c'est amené, il y a quand même quelque chose d'un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. L'inceste,
le doute, oui, il y a le doute, mais enfin là, je veux dire, si je faisais un film sur l'inceste, je le ferais bien. Là, c'est surtout ce qui est important pour moi, c'est que cette fille dise à son père, bon, maman, elle m'énerve, mais toi, zut, tiens compte de moi, je suis une femme maintenant. Ouais, ouais. Fous-moi la paix. D'ailleurs, elle a la même chose à la fin quand elle lui dit, je ne veux plus te voir.
Ouais, ouais. Hein,
je ne veux plus subir tes machins, ouais. Maintenant je suis installée dans la vie, j'ai un enfant, ouais, ouais. Et puis t'es rigolote, ça ne m'intéresse plus, etc. Elle se comporte vis-à-vis de son père comme vis-à-vis de la personne dont elle attend le plus au monde.
Ouais, ouais.
Donc avec des exactions, des paroles tancières, avec, ouais. Elle dit quand Silberg dit à Jean-Louis Roland, baise-la parce qu'elle en a envie, mm. Il répond, elle n'en a pas envie.
Mm.
C'est clair, je dirais, dans le film.
Mais il y a une radicalité comme ça dans les exigences des personnages, dans les sentiments, même dans Corps à cœur, ou dans Encore. Souvent, ils vont au bout.
Ah oui, bon,
ils vont jusqu'au bout.
Oui, non, je crois que...
Il y a un personnage formidable qui va jusqu'au bout d'Encore, c'est Michel.
Ah oui, ça, c'est un très très beau personnage.
Il va jusqu'au bout.
Il faut dire qu'il est joué d'une façon ouais. incroyable par Michel Gautier, qui n'est ouais. pas un comédien inconnu et ouais. qui a un potentiel, qui avait tourné dans, c'est là que je l'ai rencontré, dans Qui trop Ambroise, Jacques Derrida, ouais. film que j'avais monté, et j'ai découvert Michel Gautier là. J'ai trouvé un acteur très rare, et j'ai écrit ouais. pour lui le
ouais.
rôle.
Ouais. Il est formidable.
Est
Parce qu'il accompagne son ami qui a sida jusqu'au bout. Et il y a comme ça, dans tes personnages, très souvent des gens qui vont jusqu'au bout. Il n'y a pas de demi-mesure dans tes personnages.
Ben non, c'est ce que dit dans Femme-Femme, en toute lettre, ouais. elle lui dit pas de demi-mesure.
Ouais.
Paul Décali d'être venu nous parler de ses films. On est un peu butiné comme ça dans tout ton œuvre. C'était une manière d'appréhender un peu de briquet de broc, mais ça donnera peut-être envie aux auditeurs d'aller voir les films. C'est ce qu'on espère. Alors on rappelle que Cinéma Diagonal pour l'amour de la radio, ça commence mercredi et ça se terminera le vendredi 11 décembre. Ça a lieu au cinéma Le Rudebeuf. Le cinéma Le Rudebeuf, c'est à Clichy-la-Garenne. C'est métro Mairie Clichy, et c'est tout près du métro, c'est à 50 mètres. Donc vous prenez le métro, c'est pas la peine de prendre une voiture. Ça commence le 2 décembre avec une soirée d'ouverture. C'est présenté par Frédéric Strauss, qui est rédacteur au Pays du Cinéma. Il y aura donc Maladie, suivi d'En haut des marches. Ensuite, il y a donc pas mal de films, je vais pas tous les citer, hein. Il suffira d'appeler le répondeur du programme qui est le 47 39 90 19. 47 39 90 19. Donc vous pouvez à partir de quand ? Maintenant, donc à partir de tout à l'heure, là vous appelez, vous notez sur une petite feuille tous les films de Paul Décali. Et donc on a noté comme ça le lundi 7 décembre, il y a une grande soirée, il y aura Cœur à Cœur. Une grande soirée, je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être des petites mondanités à Clichy.
Oui, jour tranquille.
Jour tranquille à Clichy. Et ensuite, ça terminera donc le 11 décembre, là avec une grande journée, puisque à 14h il y aura Rosa la Rose, film public. Ensuite, il y aura Avec Sentiment, suivi de Once More. Il y aura le récit de Rebecca, suivi du café de Jules. Et ensuite,
des Jules.
Des Jules. Le café des Jules. absolument. Et ensuite, une carte blanche à Paul Décali avec un grémillon. Lequel ?
Remorque. Voilà. Je ne dis pas que c'est sublime, ils sont tous sublimes.
Donc voilà, ça commencera donc le mercredi 2 décembre, ça ira jusqu'au vendredi 11 décembre, et c'est à Clichy, mairie de Clichy, c'est au cinéma Le Rue de Bœuf. Je rappelle que mardi, c'est la journée mondiale contre le sida, et il y a une projection du film de Cyril Collard, avec un débat, il y aura plein de gens, il y aura acteurs, tout ça. Ça a lieu au cinéma Le Trianon, place Carnot, à Romainville. Et aussi, en première partie d'émission, on avait reçu Fenêtre sur cour. Ça a lieu mardi aussi, le même jour, mais c'est à 18h30 cette fois, et c'est au Palais de Chaillot, excusez-moi, et c'est donc métro, bon c'est la Cinémathèque quoi. On remercie encore une nouvelle fois donc Paul Décali est venu, Laura merci, merci à Raoul d'être resté, Michel merci, Jacques c'était très bien.
Merci.
On se retrouve donc dans 15 jours, et puis restez à l'écoute de Radio Libertaire, et n'oubliez pas donc à partir de décembre, Paul Décali au cinéma Le Rue de Bœuf à Clichy. À très bientôt.
Une petite variante pour le générique. Non pas à Jacques Testi, mais avec l'émission de l'année dernière.
Voilà.
Sur les musiques de Roland Bresson.